Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le coup de poker de Marine Le Pen, condamnée pourtant candidate, elle se pourvoit en cassation et se lance dans la course à l'Elysée. La lutte contre les flammes continue pour les pompiers venus de toute la France contre ces feux qui ravagent le sud du pays. Et l'Argentine, miracule, est revenue de l'enfer jusqu'à en faire pleurer Lionel Messi, mené 2-0 face à l'Égypte. L'Albi Céleste renverse les Pharaons 3-2 et file en quart de finale du mondial face à la Suisse.
Marine Le Pen déjà en campagne.
Attendue dans la Sarthe ce matin du côté de la Flèche au lendemain de sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Elle écope d'un an de prison ferme sous bracelet électronique et d'une peine d'inéligibilité de 15 mois ferme qu'elle a déjà purgée. Elle est donc libre de se lancer à l'assaut de l'Elysée.
Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Et vous ne changerez pas d'avis?
Non, je ne changerai pas d'avis, non. J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
Et Sonia Gobry du service politique RMC nous rejoint ce matin en direct. On vient d'entendre Marine Le Pen aux 20h de TF1. Marine Le Pen assume donc un coup de poker, mais le pari est risqué, Sonia.
Oui, parce que la Cour de cassation pourrait statuer en urgence sur ce pourvoi début 2027. Deux options, soit elle le valide et l'affaire sera rejugée après la présidentielle, soit elle le rejette et là Marine Le Pen risque de se retrouver avec un bracelet électronique à la cheville dans la dernière ligne droite de sa campagne, avec toutes les difficultés que cela comporte pour se déplacer, pour tenir un meeting en soirée. Mais c'est un pari assumé par Marine Le Pen. La décision d'être candidate en 2027, elle l'a prise très rapidement et sans hésitation. Son choix n'a pas été contesté par Jordan Bardella, assure un membre de l'état-major du Rassemblement National. Alors qu'on a vu des divergences ces dernières semaines, les deux têtes du parti veulent afficher leur unité. Marine Le Pen le répète, cette campagne se fera en binôme, c'est, dit-elle, un ticket gagnant.
Sonia Gobry, service politique RMC, une condamnation qu'Emmanuel Macron a refusé de commenter, à l'inverse des opposants de Marine Le Pen, la qualifiant de délinquante, indécente, privilégiée. Édouard Philippe, candidat Horizon, a lui dénoncé sur France 2 son incohérence.
Après avoir dit le mépris qu'elle portait à toutes celles et ceux qui avaient pu avoir mal à partir avec la justice, se trouve deux fois condamnée, mais explique qu'elle peut techniquement faire campagne, ce qui est vrai. Dire, comme elle l'a fait plusieurs fois, on devrait rendre inéligible à vie les gens qui sont condamnés et dire aujourd'hui qu'elle pense que cet article ne s'applique pas. Je vois un nouveau reniement, d'une certaine façon, de Madame Le Pen.
L'autre séquence politique de la soirée, c'est le vote à l'Assemblée nationale de la présomption de légitime défense pour un policier ou un gendarme qui ferait usage de son arme à feu, texte soutenu par le gouvernement, adopté Romain Hougue dans une assemblée sous très haute tension.
Dans un hémicycle chauffé à blanc, prêt à exploser, le résultat du scrutin tombe.
Pour 313 contre 199, l'Assemblée nationale a adopté.
En tribune, des militants opposés à la loi éructent, parmi eux Assa Traoré. Le personnel de l'Assemblée intervient pour tenter de les faire sortir. Dans le même temps, de vives contestations s'élèvent des bancs de la gauche. C'est ça le fascisme au pouvoir, s'écrie l'insoumis Louis Boyard. Immédiatement réprimandé par la présidente de séance. Une grande cacophonie au Palais Bourbon, causée par l'adoption d'une loi qui donne aux policiers la présomption d'usage légitime de son arme à feu. Autrement dit, contrairement à aujourd'hui, tout tir de policier ou gendarme sera automatiquement considéré comme légal, alors que le fonctionnaire devait jusqu'ici démontrer que son geste était réglementaire. Un permis de tuer, disent les associations de défense des droits de l'homme, comme les élus de gauche. Le texte doit désormais être prochainement étudié au Sénat.
Il est 7h05 sur RMC. La chaleur gagne du terrain. 67 départements sont en vigilance orange canicule avec la barre des 40 degrés encore franchie hier à Bordeaux, encore Angoulême, le sud du pays en surchauffe, en proie aux flammes. Deux incendies majeurs sont toujours en cours ce matin dans la Drôme. 2000 hectares ont brûlé dans une zone montagneuse difficile d'accès, compliquant la zone d'accès aux pompiers également mobilisés dans les Pyrénées-Orientales. Ils sont 800 à lutter contre ce feu qui a déjà ravagé 4900 hectares des soldats du feu venus de toute la France, comme cette unité normande appelée en renfort suivie par Rachel Sadodine, envoyée sur place pour RMC.
Après plus de 20 heures de lutte contre les flammes, la pression retombe quelques instants pour ces pompiers normands, loin d'être habitués à de telles images de désolation.
Ça fait 27 ans que je suis pompier. Et un incendie de cette ampleur, ça ne m'est jamais arrivé. C'était la première fois que j'avais vu ça. Ouais. C'est toujours triste en fait, de voir les gens en difficulté, qui ont perdu leur maison, leur bien.
Une fois sa lourde tenue de feu retirée, Julien a pu enfiler short, chapeau et tongs.
Exceptionnellement, on a un petit créneau de repos. On est rentré ce matin à 4 heures. On en profite pour remettre le matériel propre, pour pouvoir repartir sur une prochaine mission.
Juste le temps de prendre une douche, manger un sandwich et de se reposer quelques instants. Simon a 28 ans, c'est son tout premier feu de forêt.
Niveau fatigue, on n'y pense pas trop. On a l'adrénaline. On a notre lieutenant qui est juste ici qui nous fait des préparations pour nous mettre dans un sommeil profond pendant à peu près une heure.
À peine la sieste terminée, le message arrive. Benjamin et ses collègues doivent repartir.
On s'en va sur Vissac. 10 minutes, un quart d'heure, il faut qu'on soit là-bas, donc on s'en va là-bas.
Et dans le camion, de nouvelles lancées des tuyaux pour remplacer le matériel de leurs collègues endommagés par les flammes.
La paix est fragilisée au Moyen-Orient. L'Iran a ciblé ce matin plusieurs bases américaines au Koweït et à Bahreïn en réponse aux frappes menées par les États-Unis plus tôt dans la nuit, justifiées par de nouvelles attaques iraniennes. Les États-Unis rétablissent leurs sanctions pétrolières après que trois navires aient été frappés dans le détroit d'Ormuz.
Et puis le miracle argentin, qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Est-ce que n'était pas une montagne que l'Argentine a gravie hier soir à Atlanta, mais une pyramide de ses tréfonds les plus obscurs à son sommet, tombeur de l'Égypte à l'issue d'un match épique mené 2-0 à l'Albi Céleste renverse les Pharaons 3-2, passé par toutes les émotions, tout près de l'élimination, Edgar Grolot.
Oui, deux buts de retard à la 79e minute de jeu et puis Lionel Messi est apparu. Les Argentins ont marqué trois fois en moins d'un quart d'heure, dont un but et une passe décisive de leur capitaine, nommé homme du match.
Ça a été un soulagement pour tout le monde ce qu'il s'est passé, parce que ce n'est pas facile de remonter à un 2-0, mais on ne baisse jamais les bras. On essaye jusqu'au bout. C'est une folie ce qu'a fait cette équipe. Je suis très heureux que les gens puissent continuer à crier et profiter de ce qu'on réalise et j'espère qu'on va continuer.
Lionel Messi était en larmes au coup de sifflet final, tout comme son sélectionneur Lionel Scaloni qui a craqué en pleine interview.
Je n'arrive même pas à vous regarder, désolé. Je suis très ému. Quel groupe de joueurs!
Pour l'entraîneur argentin, c'était bien plus qu'un huitième de finale.
C'était pas une finale, mais la magnitude de cette rencontre est comparable à beaucoup de grands moments qu'on a vécu. Les émotions qu'un match de foot nous donne, nous les Argentins, c'est inégalable. C'est pour ça que je suis entraîneur.
Joueurs et staff ont chanté en chœur en rentrant au vestiaire. Ils affronteront la Suisse en quart de finale.
La Nati, vainqueur de la Colombie au tir au but. Pas de foot aujourd'hui, c'est une première depuis le début de ce mondial. Avant le début des quarts de finale, demain, France-Maroc, 22h sur RMC, arbitré par Facundo Tello et ses quatre assistants, tous argentins. Et puis le Tour de France, avec du plat au programme de la cinquième étape promise aux sprinteurs entre Lannemezan et Pau, à suivre sur RMC avec un nouveau maillot jaune, Thorsten Train, coéquipier d'échappée de Mats Petersen, vainqueur hier à Foix.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Vous le savez, toute la semaine, on vous offre vos vacances. On vous offre vos vacances sur RMC, vos vacances à la mer ou à la montagne. Remportez un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France où Bellambra s'occupera, et ça c'est ma partie préférée, j'avoue, des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris premium et on vous l'offre pour remporter votre séjour Bellambra. Vous envoyez tout de suite vacances au 732-16. Vacances au 732-16. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et vous êtes très nombreux, très très nombreux ce matin à nous appeler, à nous mettre des messages sur le WhatsApp pour réagir à la condamnation et à la candidature de Marine Le Pen. Bonjour Maude.
Bonjour Apolline, je suis ravie de vous avoir au téléphone.
Eh bien, soyez la bienvenue. Maude, vous nous appelez d'Olivet dans le Loiret. Je crois que vous êtes enseignante. Vous vouliez réagir. Pour vous, c'est un scandale, elle ne devrait pas y aller.
Absolument. Je crois qu'on a perdu tout bon sens dans ce pays. On marche sur la tête. On a d'un côté une Marine Le Pen, il y a quelques années, qui nous dit « Ah là là, si jamais un homme politique est condamné, inéligibilité. »
J'avoue que je me suis entraînée.
Voilà, vous m'avez compris, c'est le principal avis. Alors faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Je trouve que si elle était élue, Moi, en tant que citoyenne lambda, j'accepterai le verdict, même si je suis pas une pro-RN. Mmh. Néanmoins, avoir une présidente de la République qui est condamnée par la loi à deux reprises, bah, j'avoue que ça me fait un petit peu tiquer et moi, j'ai mal à ma France. Je trouve que pour être présidente de la République, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Et les électeurs RN sont les premiers à dire pique-pendre quand vous avez des opposants politiques qui sont condamnés ou en disant qu'il faut mettre tous les criminels en prison. Mmh. Là, elle a même pas fait de prison alors qu'elle a été condamnée à un an. Alors, moi, je ne comprends plus, là. C'est le grand paradoxe.
Passionnant aussi vos réactions ce matin, Maud, c'est très intéressant. Vous dites presque, voilà, si elle est élue condamnée, pour moi, j'ai plus de mal à accepter même le verdict des urnes. Merci beaucoup, Maud, d'être venue au 32-16. Le décor est posé ce matin et le débat est lancé. Il est 7h11 et écoutez justement ce que disait Marine Le Pen hier soir.
J'étais heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter. Et que la Cour me rende mon éligibilité. Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027.
Marine Le Pen, donc je le disais, condamnée mes candidates et qui annonce qu'elle se pourvoit en cassation. Ça va marcher comment? Quel est le déroulé? Comment on fait pour se projeter? Bonjour Ludovic Friat.
Bonjour.
Vous êtes le représentant de l'Union syndicale des magistrats. Décision qui peut paraître surprenante de la part de Marine Le Pen. Certains parlent de poker, de pari. Quelle est la réalité juridique derrière? Marine Le Pen exerce son droit à la justice qui devra répondre rapidement. Voilà votre parti pris, vous nous le dites dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 7h15 sur RMC et RMC Story. Tout comprendre ce matin, la déflagration juridique et l'enjeu politique autour de ce qu'il s'est joué pour Marine Le Pen hier. Condamnée pour détournement de fonds publics, mais candidate et elle se pourvoit en cassation. Bonjour Ludovic Friat.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats, le premier syndicat de la profession. Marine Le Pen annonce qu'elle est candidate, qu'elle se pourvoit en cassation et que cela aura pour conséquence, un, qu'elle peut dire qu'elle est innocente, elle est en tout cas considérée comme innocente aux yeux de la justice, puisqu'elle repart à zéro en quelque sorte, et deux, qu'elle pourra faire campagne sans bracelet électronique. Est-ce que c'est juste?
Pas tout à fait. Dire qu'elle est considérée comme innocente, on est sur une condamnation qui a été rendue en appel. Et une condamnation, effectivement, pour des faits qui sont graves au terme de notre code pénal, puisque c'est une infraction qui est punie de 10 ans d'emprisonnement. C'est le maximum encouru en matière correctionnelle. Elle a fait un pourvoi en cassation, ce qui est parfaitement son droit, hein, c'est légitime. Ceci étant, ce pourvoi n'efface pas la décision de la cour d'appel qui a été rendue hier. Il ne fait qu'en suspendre les effets dans l'attente de ce que le pourvoi...
Il n'efface pas sa condamnation. Elle est coupable.
Aujourd'hui, elle est condamnée. Mais effectivement, puisqu'elle a fait un pourvoi en cassation, il faut bien que nos auditeurs aient conscience de cette, on va dire, cette, ce qui n'est pas qu'un détail. Le pourvoi en cassation, ça ne fait pas rejuger toute l'affaire dans les faits, dans le fond du dossier, comme un appel. C'est uniquement sur le droit, sur des questions de droit. Là, en l'espèce, on peut penser que l'action de droit soulevée, c'est l'article du code de procédure pénale qui est appliqué aux personnes qui ont été condamnées, ne serait pas applicable en matière européenne. En fait, grosso modo, ce que soutient Marine Le Pen et ses avocats, c'est que cet article ne joue que dans le cadre national, on va dire, que pour les élus ou les responsables locaux, et non pas en matière européenne.
Or là, il s'agit d'une affaire européenne. Ludovic Friat, concrètement, elle ne portera donc pas de bracelet électronique, en tout cas pas jusqu'à ce que la Cour de cassation rende sa décision.
Absolument, pas dans l'immédiat, puisque...
Qu'est-ce qu'elle risque? Imaginons les différents scénarios. Premier scénario, la Cour de cassation confirme la peine qui a été prononcée hier. Dans ce cas-là, imaginons que ça arrive quoi, en janvier, février, à quel moment ça peut arriver au plus tôt? Et donc avoir pour conséquence un port de bracelet électronique à la fin de la campagne?
Il me semble avoir entendu le procureur général près de la Cour de cassation dire « Nous nous mettons en situation de pouvoir juger ceci assez rapidement », c'est-à-dire début 2027, effectivement, en janvier, février. Bon.
Alors pardon, on va être un peu technique, mais ça veut dire, imaginons début février.
Oui.
Imaginons que début février, la décision de la Cour de cassation, c'est donc, oui, Marine Le Pen est bien coupable, nous ne cassons pas la décision de la Cour d'appel de Paris. Alors, on arrive quoi en mars pour un premier rendez-vous avec le juge d'application des peines qui va décider si oui ou non et dans quelles conditions elle porte son bracelet. Au plus tôt, elle a un bracelet quoi? En avril?
C'est là tout le pari de Marine Le Pen. En fait, elle est, si j'ose m'exprimer ainsi, elle a un pied sur l'accélérateur pour les élections présidentielles. Elle veut y arriver le plus vite possible, le plus tôt possible, et un pied sur le frein sur le judiciaire. À savoir, il est probable que ses avocats fassent de multiples demandes, de multiples recours dans le cadre de ce pourvoi en cassation. On peut imaginer, par exemple, là, je suis pas dans leur tête, une question prioritaire de constitutionnalité qui serait posée devant la Cour de cassation. Et si elle était reçue, on repartirait devant le Conseil constitutionnel pour sans doute plusieurs semaines.
Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que même au pire scénario pour elle, c'est-à-dire que la Cour de cassation ne confirme ce qui a été décidé par la Cour d'appel hier, en réalité, elle a rien à perdre.
En réalité,
par rapport au calendrier électoral, elle n'avait rien à perdre.
Si je reprends effectivement ce que je vous disais sur le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur, on va voir si elle part en drift judiciaire ou pas. Mais exactement, son pari, c'est de se dire finalement, très rapidement, je serai dans la campagne, je serai à la campagne. Sans doute, le judiciaire va prendre du temps. Donc, je tente ceci.
Alors, imaginons quand même l'autre scénario, pardon, mais je voudrais tirer tous les fils, qu'on ait vraiment toutes les cartes en main ce matin. L'autre scénario, c'est la Cour de cassation casse le jugement. Oui. On repart où ?
Il y a deux solutions, on va dire, intellectuellement. Elle casse sans renvoi, grosso modo, elle dit l'article sur lequel s'est fondé le tribunal, puis la Cour d'appel n'est pas applicable au cas d'espèce. Donc là, quasiment, ça pourrait s'arrêter là. Soit, effectivement, elle casse et elle renvoie à une nouvelle juridiction, une nouvelle cour d'appel.
Et dans ce cas-là, on repart.
Et dans ce cas-là, c'est reparti.
Zéro.
Alors, si entre-temps, Marine Le Pen est élue à la magistrature suprême, clairement, ça c'est la jurisprudence Chirac qu'on connaît tous, pendant le temps de son mandat, on ne peut pas, effectivement, instruire contre elle.
En fait, de ce que l'on comprend avec vous, Ludovic Friat, c'est que, quel que soient les scénarios, quel que soit le fil que l'on tire, elle est, en quelque sorte, tranquille jusqu'aux élections.
J'ai pas la réponse absolue. On peut imaginer que la Cour de cassation écarte, par exemple, une demande de question prioritaire de constitutionnalité et statue rapidement. Ça serait le pire des scénarios pour Marine Le Pen, puisque effectivement, on se retrouverait dans un arrêt qui serait exécutoire, qui serait définitif. L'autre risque aussi qu'elle prend, puisqu'il y a ce petit risque-là, c'est si effectivement c'est renvoyé devant une autre juridiction, et même si c'est repoussé à plusieurs mois, voire plusieurs années si elle est élue, on risque de faire revivre, selon une jurisprudence, la décision de première instance, à savoir elle serait inéligible pour 5 ans.
Et cette question, c'est que malgré tout, même si le calendrier désormais lui laisse faire campagne au moins quelques mois, il y a toujours cette idée qu'elle a été condamnée, quoi qu'il arrive, elle a été condamnée par deux juridictions, l'une puis l'autre. Je voudrais qu'on puisse donner la parole à Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Nicolas? Vous êtes chauffeur routier dans la Nièvre. Ça vous choque qu'elle soit candidate?
Ouais, ça me choque. Et c'est même pas choqué, en fait, c'est déçu. Il y a quelques temps, elle a dit que sous bracelet électronique, elle ne ferait pas campagne, elle ne pouvait pas être candidate. Là, hier, tout le monde attendait la décision. Elle aura un bracelet électronique, même si elle va se pouvoir en cassation. Et elle revient sur sa parole, elle arrive aux 20h, elle dit « je suis candidate ». Bah, je suis désolé, moi j'ai voté RN aux deux dernières présidentielles, à la dernière législative. Et là, je suis en train de me dire, finalement, cette dame, elle n'a pas de parole. Elle est comme beaucoup de politiques, elle n'a pas de parole.
Dans ces cas-là, vous vous abstiendrez? Alors, techniquement, Nicolas, elle ne fera pas campagne sous bracelet électronique. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qu'elle dit hier. Elle dit, j'ai dit que je ne ferai pas campagne avec bracelet électronique, mais je n'en aurai pas puisque je me pourvois en cassation. Elle n'aura pas de bracelet électronique. Hein.
Voilà, elle se pourvoit en cassation. Mais si elle s'en réfère à la décision de justice qui
Tout
a été
fait.
Donnée hier, elle n'aurait pas dû faire campagne selon ses dires. Quand elle a dit qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique, elle n'a pas dit, de toute manière, si on me condamne avec un bracelet, je me pourvoirai en cassation.
Ça a pris tout le monde de court. Nicolas, quand même une question. Ça veut dire que vous vous abstiendriez, vous n'avez pas pour autant d'autres candidats en tête?
Bah, ça ne se dit pas à l'heure d'aujourd'hui, mais... À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, pour l'instant, j'ai personne. Donc, comme j'ai dit au standard, je vais suivre la campagne, je vais regarder ce que chacun propose.
Mais au moment où on se parle... Au moment où on se parle, vous savez quoi, vous nous rappellerez, Nicolas, quand vous y verrez plus clair. En tout cas, merci beaucoup pour votre réaction. Ludovic Fria, merci à vous pour de nous avoir éclairé, même si on comprend qu'il reste une zone de pari quand même, effectivement, dans cette décision. Ludovic Fria, vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats, le premier syndicat de la profession. Il est 7h23. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur. C'est Dragon Ball Z, le plus célèbre manga japonais que l'on entend là, la culture manga qui déferle sur la France.
Et oui, avec l'inauguration demain de la Japan Expo, le plus grand rendez-vous des amateurs de manga, un phénomène qui ne cesse de grandir en France.
Et vous nous le dites dans 60 secondes, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25 et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, début demain de la Japan Expo au nord de Paris, le rendez-vous annuel des fans de manga. 200 000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche.
Et oui, c'est la 25e édition. La Japan Expo, c'est le troisième plus grand salon français. Après le salon de l'auto et celui de l'agriculture, une success story qui traduit une vraie passion pour cette partie du monde asiatique.
De quand date le premier vrai manga ?
Alors, le terme arrive au 19e siècle. Un manga, ça veut dire image dérisoire, croquis si vous préférez. Et son créateur, il s'appelle Hokusai. Hokusai, c'est un des plus grands dessinateurs japonais et il imagine une série de 15 histoires illustrées avec des petites images qui racontaient donc des scènes du quotidien. Alors à cette époque, il n'y a pas de dialogue et cette première sorte de manga va avoir énormément de succès au Japon, comme quoi il y avait vraiment un public. Hein.
Quand est-ce que ça va se populariser et notamment à l'échelle du monde ?
Alors en 1901, un artiste japonais, Rakuten Kitazawa, commence à publier des mangas dans un journal. Cette fois, il y a du texte, pas beaucoup, mais un peu, mais le tournant... C'est juste après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40 et au début des années 50, puisque les Américains occupent le Japon, qui avait perdu la guerre, et avec eux, les Américains, ils apportent les fameux comics. Vous savez, ces bandes dessinées avec des super-héros, les Japonais adorent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont l'idée de mélanger comics et manga. Ils ajoutent donc des dialogues dans des bulles, ils mettent des dessins dans des cases. Le manga moderne était né.
Extraordinaire. La France est le deuxième pays du manga.
Et oui, incroyable, mais vrai. C'est en France qu'on vend le plus de mangas après le Japon. Les chiffres, 1 livre sur 10 vendu chez nous est un manga. En 2024, ça représentait 35 millions d'exemplaires vendus. C'est stratosphérique.
Comment on explique un tel engouement ?
Alors, on le doit surtout à une émission de télévision pour les enfants. Une émission de télévision qui s'appelait Le Club Dorothée.
Bah, évidemment.
Et oui, voilà.
Présenté. Vous en parlez, ça vous paraît vraiment voilà, de l'histoire, si vous voulez. Mais nous, c'est insolent. Le Club Dorothée, c'est notre vie, quoi.
C'était présenté donc par une certaine Dorothée. C'était archi populaire. C'était archi populaire à la fin des années 80 et dans les années 90. Et justement, cette émission diffusait des dessins animés japonais.
Bioman.
Dont le fameux Dragon Ball Z, où tous les codes de la culture japonaise était là. Donc voilà en partie ce qui a préparé le triomphe du manga est, donc au Moyen-Âge.
Mathieu, ça y est, on fait partie de l'histoire.
C'était sous Rocard, non ?
Je savais que vous alliez le prendre mal.
Arthur Chevalier, il est 7h27 et donc la chronique d'Arthur est évidemment à retrouver à tout moment. On se retrouve dans un instant sur RMC pour la météo et le journal. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Ultime recours, pari risqué. Marine Le Pen, laissée présidentiable mais reconnue coupable par les juges, se lance dans un pourvoi en cassation pour s'éviter une campagne sous bracelet électronique. 9 élèves de maternelle qui accusent insuffisant pour balayer le bénéfice du doute, estime la justice. Un animateur périscolaire relaxé à l'issue de son procès pour agression sexuelle et à une semaine du 14 juillet, déjà des annulations de feux d'artifice pour ne pas engendrer plus d'incendies qu'il n'y en a déjà.
Marine Le Pen, bel et bien en campagne présidentielle ce matin.
Attendue dans la Sarthe, libre de ses mouvements malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics hier, parce qu'elle a écopé de 15 mois d'inéligibilité ferme qu'elle a déjà effectuée et parce qu'elle a décidé de se pourvoir en cassation, ce qui suspend l'année de prison ferme qu'elle devait passer sous bracelet électronique. Ce choix, il satisfait la plupart de ses électeurs dans son fief d'Hénin-Beaumont, Luc Allobert.
C'est sur son téléphone dans les rues d'Hénin-Beaumont que Maxime, jeune électeur du Rassemblement National, a suivi l'interview de Marine Le Pen. L'annonce de cette candidature, pour lui, c'est beaucoup de soulagement.
Moi, je suis très content dans le sens où je voulais qu'elle puisse se porter aux élections présidentielles.
Pour le coup, elle se présente, mais elle a été condamnée. Ça change rien.
Je trouve pas que ça pose de problème dans le sens où on voit qu'il y a quand même beaucoup de Français qui se sont rapprochés de Marine Le Pen. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui qu'elle puisse faire campagne.
Pour Ali, au contraire, le RN se tire une balle dans le pied.
Comme elle dit, elle, les mains propres, c'était son slogan au Front National. Et là, les appuis, les mains propres. Apprends quand même de perdre une partie de son électorat. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que par exemple, ça n'aurait pas été mieux ?
Marine Le Pen compte se pourvoir en cassation, ce qui suspend le port du bracelet électronique, mais elle prend le risque de devoir en porter un dans la dernière ligne droite de la campagne si elle était définitivement condamnée avant l'élection. Léo, mécanicien et électeur du Rassemblement National, n'y voit pas de problème.
Les gens depuis des années qui veulent voter Marine Le Pen, on attend, ils vont pas changer à la fin comme ça fusil d'épaule. Quoi.
Illustration parfaite avec Jérôme.
Ah non, ça me gêne pas. Pourquoi ça freinerait une personne dans sa campagne ? On a tous fait des erreurs et bien on a tous droit au pardon.
Avant de conclure, oui, je la soutiendrai et ce, quoi qu'il arrive.
Alors quel impact dans l'opinion publique ? On en parle juste après ce journal avec Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. On en vient à l'immense colère des parents d'élèves du périscolaire parisien. Un animateur accusé d'agression sexuelle par 9 enfants de maternelle a été relaxé. Hier, Constance Bostoen du service police-justice de RMC, les justifications du juge ont révolté ses parents.
À l'annonce de la relaxe, plusieurs parents se sont effondrés en larmes. D'autres se sont levés scandalisés en criant qu'il fallait écouter leurs enfants. Quelques minutes plus tard, l'une des mamans laisse éclater sa colère à la sortie de la salle d'audience.
Un délibéré très dur. On avait suffisamment d'éléments dans le dossier. On a 9 enfants qui aujourd'hui sont traumatisés. On vient de vivre une année et demie de calvaire où toute notre vie a changé. Et aujourd'hui, on avait de l'espoir de se dire que la France allait entendre en tout cas les messages, la parole des enfants. Le fait est, c'est que cette personne va sortir complètement libre.
Le président a justifié la relaxe. Faute d'éléments matériels suffisamment constitués et, je cite, au bénéfice d'un doute très sérieux. Il a souligné aussi le fait que les témoignages des jeunes victimes avaient pu être influencés par leurs parents. Ce dernier point a particulièrement scandalisé Caroline, maman d'un petit garçon de 3 ans et demi.
J'ai eu l'impression d'être à mon procès à moi en tant que maman, parce que là on m'a clairement dit que j'avais influencé sa parole. Comment voulez-vous influencer des symptômes, des pipis au lit, des infections urinaires, des cauchemars, comment voulez-vous inventer ça, comment voulez-vous influencer ça?
Le parquet avait requis 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. Il a désormais 10 jours pour faire appel.
Et notez que l'homme a malgré tout été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur 2 de ses collègues. Les incendies dans la Drôme. D'abord, on a atteint les 2000 hectares parcourus par le feu des colonies de vacances. 473 enfants au total ont été évacués hier. Et puis la crainte d'un regain d'intensité des flammes dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Après la calmie d'hier, le vent doit se lever à nouveau. Il va donc s'ajouter à ces canicule qui s'est étendue, 67 départements en vigilance orange. Des records pour un mois de juillet ont été battus à plus de 40 degrés hier à Castelnaudary, à Carcassonne, à Auch ou encore à Angoulême, à tel point que certaines communes prennent les devants et annulent ou reportent par précaution les feux d'artifice du 14 juillet. Jean-Wilfried Forquès.
Des sols secs, des températures caniculaires à Bourg-les-Valence, dans la Drôme, la maire Marlène Mourier n'a pas voulu prendre le moindre risque. Elle a opté pour le report du traditionnel feu d'artifice.
Les habitants ont très très bien réagi. Ils ont compris l'importance de la situation. Et surtout, ce qui est revenu dans les échanges que j'ai pu avoir avec eux, il faut préserver nos pompiers.
Préserver les pompiers mobilisés sur l'incendie en cours dans les Pyrénées-Orientales, c'est aussi l'objectif du préfet du département qui encourage les maires à annuler leurs feux d'artifice. Annulations qui se multiplient en France, dans la Creuse, en Ardèche, dans la Sarthe ou encore en Franche-Comté, où Émilie Chenu gère une entreprise de feux d'artifice. Elle a déjà reçu une vingtaine d'appels de maires.
La décision, elle est claire, nette et précise. On ne veut pas prendre le risque de mettre en péril la société, d'aller mettre le feu aux alentours. Et puis tout simplement aussi pour les communes, parce que je veux dire, le coup de pub, il serait terrible. Autant pour eux que pour nous, on peut pas prendre le risque. C'est une question de bon sens.
La plupart du temps, les communes choisissent de reporter les festivités à la fin de l'été.
Prudence des autorités et alerte d'une association de consommateurs ce matin. C'est peut-être votre crème solaire qui est incriminée par une étude de Que Choisir. Ces tests sont formels. Certains de ces produits sont dangereux, Romain Houg, avec les suspects habituels, les plateformes chinoises.
Oui, dans le viseur de Que Choisir Ensemble, Temu, Shein et AliExpress, l'association a testé 10 crèmes solaires vendues sur ces 3 plateformes. Les conclusions sont alarmantes. 9 ne sont tout simplement pas conformes. Dans le détail, parmi les produits testés, testés. 3 sont éliminés d'office. Ils contiennent un produit interdit dans l'Union européenne. Sur les 7 produits restants, 6 échouent à protéger à hauteur de l'indice annoncé. Et parmi eux, 4 ne bloquent même pas du tout les rayons UV. Reste un seul produit. Problème, il renferme un ingrédient qui a montré une perturbation des œstrogènes et de la fonction thyroïdienne, dit l'association. Autrement dit, c'est un 0 sur 10. Aucune crème ne trouve pleinement satisfaction quand elle n'est pas carrément dangereuse. Contactés par Que Choisir Ensemble, les 3 plateformes ont annoncé avoir retiré les produits incriminés, mais rien ne garantit que ces produits ne réapparaissent pas sous d'autres annonces, inquiète l'association qui a annoncé saisir l'ARCOM et signaler ces cas à la répression des fraudes.
Les explications de Romain Hougue pour RMC. Reprise des frappes au Moyen-Orient après celle de Washington sur l'Iran. Hier, Téhéran répond en ciblant des bases américaines au Koweït et au Bahreïn ce matin. Et les États-Unis accusaient leur ennemi d'avoir visé des navires dans le détroit d'Ormuz ces derniers jours. Et puis je vous donne les derniers résultats de la Coupe du Monde de foot. Qualification en quart de finale de l'Argentine qui a renversé l'Égypte dans les 10 dernières minutes. Score final 3-2 pour les Argentins. La Suisse, elle, est venue à bout de la Colombie au tir au but. Pas de match au programme aujourd'hui. Petit repos avant le début de ces quarts de finale avec ce Maroc-France. Demain à suivre sur RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Pornichet la Baule.
À départ à 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 8, Jolly Doll. Son outsider, le 11, Jiminy Cricket, le 8 et le 11.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h38 sur RMC. Marine Le Pen sera donc candidate du RN en 2027. C'est elle qui l'assure hier soir à la télévision. Condamnée, mais déterminée, Marine Le Pen lance sa campagne pour une renaissance. Voilà ce qu'elle dit. Elle sera d'ailleurs sur le terrain dès aujourd'hui. Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Vous dirigez l'Institut de sondage IFOP. On va essayer de comprendre avec vous, après les conditions juridiques que l'on vient de voir avec un magistrat, là avec vous, sondeur, analyste, quelles peuvent être les réactions des électeurs RN, mais du reste des électeurs également. Peut-elle véritablement faire campagne avec cette épée de Damoclès malgré tout sur la tête? Votre réponse dans un instant et vos témoignages à vous tous qui nous écoutez, témoignages, réactions, questions, le 32-16 vous est ouvert.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Story. Et cette question, évidemment, quelle campagne attend Marine Le Pen? Condamnée, elle se pourvoit en cassation et lance sa bataille pour la présidentielle. Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Institut IFOP. Vous sondez régulièrement les Français. Marine Le Pen, candidate, mais avec une épée de Damoclès sur la tête, même si on a bien compris que juridiquement, elle devrait être à peu près tranquille jusqu'au printemps. Ça change quoi d'être candidate condamnée?
Oui, ça change. Il y a vraiment deux logiques qui se font face. D'un côté, une logique qui va être forte quand même dans l'électorat RN. Hein. C'est naturel pour eux qu'il y ait une candidature Le Pen. C'est la 9e depuis 1974, c'est la 4e de suite pour Marine Le Pen. Elle a été 2 fois au second tour, faut pas l'oublier. Donc auprès de cet électorat-là, le côté mère courage, résiliente, revenu du diable Vauvert, qui se sacrifie pour le pays.
Il fonce.
Voilà,
qui fonce malgré tout,
même pas mal comme disent les jeunes, et qui va toujours plus que jamais installer une proximité identificatoire. Elle me ressemble, elle est comme moi, c'est une mère de famille, divorcée, qui connaît en plus qu'elle a cette expérience et cette densité. Donc dans une logique de premier tour, c'est plutôt intéressant. Pour Marine Le Pen, 2 fois de suite qualifiée pour le second tour, il faut penser au second tour. On peine aujourd'hui, ici et maintenant, à imaginer un RN absent du second tour. Voilà. On se souvient de la campagne de François Fillon.
Et au second tour, vous dites, Frédéric Dabi, que pour rassembler, c'est-à-dire pour aller c'est chercher au-delà de son électorat habituel, c'est là que ça peut coincer.
Ça peut coincer parce qu'il y a une logique d'élargissement, de rassemblement, d'élimination. Vous connaissez la célèbre phrase de Charles Pasqua, qu'est-ce que c'est qu'une élection? Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Est-ce qu'on envoie quelqu'un qui risque d'être condamné définitivement après avis de la Cour de cassation? C'est une vraie question. Puis je pense également, hein, je mets en parallèle, même si ça n'a rien à voir, François Fillon n'était pas condamné quand il a fait campagne, c'était le début d'une affaire assez lourde. Il y a le côté brouillage. Les casseroles, systématiquement des questions sur son affaire, la difficulté de parler de sujets au cœur de l'électorat RN, l'insécurité, la délinquance sur le vote. Mais vous avez organisé un
vous
système.
Vous imaginez déjà un débat de second tour ou face à elle.
Bien sûr.
Les arguments sont tout trouvés.
Mais oui, ça me paraît tout à fait compliqué. Maintenant, c'est vrai également qu'il y a le cas Jordan Bardella, qui est le grand absent. Il a été évacué. Moi, je conteste l'idée qu'il fut un plan B, ou il fut un remplaçant. C'est un plan A. C'est le chef du parti. C'est celui qui a amené le Rassemblement National à la victoire dans trois élections importantes, les européennes de 2019-2024, le premier tour des élections législatives. Dans les dernières enquêtes IFOP fiduciales pour le Figaro et LCI, on a vu un Jordan Bardella avec un potentiel électoral supérieur de 5 à 6 points à Marine Le Pen. Alors, est-ce que c'était que des électeurs RN avaient intériorisé, anticipé que peut-être Marine Le Pen soit empêchée, ou est-ce que c'était une vraie préférence? On le verra dans les prochaines enquêtes. Peut-être ils ne partiront pas au même niveau, même si le socle est quand même supérieur à 30, qui est le score du RN à toutes les élections depuis 2020.
Et réussiront-ils à maintenir ce tandem? On verra d'ailleurs, on aura la réponse dès ce matin, puisqu'ils seront ensemble, côte à côte, en déplacement pour le premier déplacement de campagne.
À la flèche.
Jérémy nous appelle au 32-16. Bonjour Jérémy.
Bonjour Apolline.
Vous êtes chauffeur, livreur dans l'Isère. Vous regrettez qu'elle maintienne sa campagne de Marine Le Pen?
Oui, en fait, ça renvoie pas un super message, parce que justement, vous venez de le dire, on ne pourra pas faire des débats sur justice et sécurité sans venir à parler de ces affaires judiciaires.
Sans qu'on se dise « et vous, quoi ?»
Et vous, voilà, exactement. Mmh. L'exemplarité, elle commence par là. Mmh. Moi, comme j'ai dit dans mon message sur Direct Studio, on ne peut pas parler de la justice, il n'y aura pas de débat sans qu'on fasse référence à elle. Et vous, Madame Le Pen, quand est-ce que vous montrez l'exemple? C'est ça le problème. Encore une fois...
Jérémy, mais vous votez qui habituellement?
Moi, j'aurais plutôt une complaisance pour le RN, bien D'accord. que ça m'est arrivé de ne pas forcément voter pour eux. Moi, ce qui m'importe pour moi et l'avenir de mes enfants, c'est surtout ce que proposent les différents partis politiques. Je ne vais pas m'arrêter forcément au RN.
Mais est-ce que ça veut dire, Jérémy, par exemple, que cette fois-ci, vous vous dites, si je trouve un autre candidat qui me plaît davantage, je préfère ne pas voter pour elle?
Ah, mais moi, je ne vais pas me gêner. Ce n'est pas parce que ce serait Le Pen ou Bardella. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est les valeurs de la République française. Donc jusque-là, le RN le représentait bien, mais l'entêtement de Marine Le Pen à vouloir se représenter me fait penser à Mélenchon. Moi, la République, on la sert, on se l'appartient pas. Je sais plus qui c'est qui l'a dit il y a pas très longtemps, mais pour moi, ce sont des serviteurs de l'État, il faut pas l'oublier.
Et donc tout d'un coup, vous mettez dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Regrettablement, regret, oui, de l'admettre que là, pour le coup, le message n'est pas très bon, quoi.
Très intéressant. Merci de votre témoignage, Jérémy. Jérémy, donc chauffeur livreur dans l'Isère. Frédéric Dabi.
C'est très intéressant ce qu'a dit Jérémy. Il met en avant une rhétorique célèbre du Rassemblement National, même du Front National de Jean-Marie Le Pen, le tous pourris, la bande des quatre. Sortons-les. Quand même, dans l'électorat RN et même dans l'ensemble de l'électorat français, on se souvient de la campagne compliquée de Jacques Chirac qui était cerné par les affaires, ça ne lui a pas coûté. Les Français, vilipendent, dénoncent davantage un tous impuissant à régler les problèmes du pays du côté de la classe politique que le tous pourri. N'oublions pas que la force du RN, c'est la dimension d'alternative. Ceux qui n'ont jamais été essayés, pourquoi pas elles, ils font pas pire que les autres. Et là, c'est déconnecté des affaires. Mais c'est vrai que le RN perd un de ses moteurs de propulsion qui est l'exemplarité, la probité par rapport à une classe politique corrompue.
La question de l'exemplarité, évidemment. Au fond, quand je vous écoute, Frédéric Dabi, vous vous dites peut-être qu'elle aurait dû laisser la main à Jordan Bardella.
Ah, c'est pas à moi de le dire.
Aux yeux de ce que vous connaissez de son électorat.
Dans ce qu'on voit dans l'état de l'opinion, quand on voit la force de séduction auprès d'électorats acquis et potentiels du RN, la percée de Jordan Bardella à droite, où il a des scores de popularité et même d'attention de vote supérieure à Marine Le Pen.
Et si eux se disent, oui, mais il sera Premier ministre, ça ne suffit pas.
Alors, c'est clair. Alors, on va évacuer les comparaisons avec le passé. Traditionnellement, ça ne marche jamais un ticket sous la 5e République. On se souvient de Ferme à Défense, etc. Il y a un candidat, Nicolas Sarkozy, en 2007, qui avait dit très clairement, mais plutôt en fin de campagne, en février-mars 2007, j'aurai un Premier ministre et il s'appellera François Fillon. Mais on va se parler très très franchement. Il y avait un émetteur Sarkozy si fort, si consensuel et qui crée un tel enthousiasme auprès des Français qu'on entendait peu François Fillon. Là, ce serait un Jordan Bardella qui, lui, je dirais, est beaucoup plus fort que ne l'était le Premier ministre François Fillon. Mais c'est vrai que cette idée de ticket est plutôt intéressante parce que il peut ratisser large, même si, je le répète, le second tour, ça se joue sur énormément de choses et notamment qui, à qui je donnais les clés de la Maison France.
Merci beaucoup Frédéric Dabi pour votre analyse, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Et merci à Jérémy pour son témoignage depuis l'Isère. Il est 7h50. C'est mercredi, le mercredi c'est la droite. Et c'est donc Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
L'Assemblée nationale a approuvé hier soir la présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Tollé à gauche. Vous vous en félicitez, Louis?
Enfin, la police française retrouve un peu de son mordant, n'en déplaise à tous ces gauchistes.
Vous nous le direz dans un instant. Au moins, là, vous êtes dans votre rôle, 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, avec la Coupe du Monde de e-sport. Turn down for what?
La troisième e-sport World Cup qui démarre aujourd'hui et qui se tiendra à Paris jusqu'au 25 août, c'est la Coupe du Monde du jeu vidéo. 7 semaines de compétition, des tournois sur 24 jeux différents, League of Legends, Fortnite, Counter-Strike, FIFA, il y a même des échecs. Et si vous avez reconnu DJ Snake sous ma voix, c'est qu'il sera de la cérémonie d'ouverture ce soir. Comme Aya Nakamura ou comme Théodora, c'est à la scène musicale à Paris. Et si vous n'y connaissez rien, ça vous en dit peut-être un tout petit peu plus sur l'ampleur de l'événement. 2000 joueurs professionnels, dont toutes les stars de l'e-sport actuelle. 75 millions de dollars de dotation à la clé. Ça s'installe cette semaine au Parc des Expos, Porte de Versailles, à Paris. C'est la troisième édition de l'IWC. Les deux premières se jouaient en Arabie Saoudite. Et c'est la guerre au Moyen-Orient qui a délocalisé l'événement à Paris. L'e-sport, ce sont plus de 3 milliards de pratiquants dans le monde, nous dit-on, et un intérêt croissant des Français. 23% des internautes disent s'y intéresser.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mercredi, le mercredi c'est la droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
L'Assemblée nationale a adopté hier soir la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. La gauche dénonce un permis de tuer. Oui. La défenseure des droits parle d'un affaiblissement des principes fondamentaux. Et vous, vous dites enfin ?
C'est une excellente nouvelle, Apolline. L'État détient le monopole de la violence légitime. Et cette violence légitime a un visage, un uniforme, une présence physique. C'est le policier. Alors, laissez-moi déjà vous prévenir d'emblée, je ne prétends pas du tout être objectif sur ce sujet et j'assume d'ailleurs totalement mon préjugé.
Quel préjugé ?
J'ai été élevé par des policiers. Le SPHP, le Service de Protection des Hautes Personnalités, ceux qui protègent les ministres, qui protègent le Président de la République, aujourd'hui rebaptisé le SDLP. J'ai passé la totalité de mon enfance et de mon adolescence avec eux. Alors, quand j'entends le permis de tuer, permettez-moi de le dire, ça trahit une chose, ces gens, cette gauche, n'y comprend rien.
Quoi?
Et n'y connaissent rien.
C'est-à-dire
que la gauche, que LFI, que ces députés qui n'ont jamais fait face à une foule de manifestants déchaînés, qui n'ont jamais mis leur vie en danger pour une cause plus grande que leur petit nez, qui n'ont jamais connu le vrai effort physique ni le vrai drame d'une profession dangereuse, qui commentent du haut de leur bureau climatisé au fin fond de l'Assemblée, se permettent d'écrire que les policiers veulent tuer. C'est à vomir. Personne ne souffre plus des violences que le flic. Comme personne d'ailleurs n'est plus pacifiste que le soldat. C'est lui qui subit les conséquences de la guerre. Et c'est certainement pas Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, dont deux collaborateurs sont suspectés de meurtre, qui va donner des leçons de morale à qui que ce soit.
Vous y allez fort quand même.
Laissez-moi même aller plus loin. Nos policiers devraient utiliser leurs armes plus souvent. Plus souvent. Vous voulez de l'ordre ? Vous voulez des voyous qui ont peur ? Vous voulez une police dissuasive ? Elle doit taper. Et non plus être l'otage d'une justice qui préfère protéger les criminels contre les policiers plutôt que l'inverse. La police n'est pas une association humanitaire. C'est le bras armé de la République. Elle doit aspirer le respect, l'admiration et aussi la crainte de ceux qui envisageraient un instant de la défier.
Elle n'inspire plus ça pour vous, la police, la gendarmerie ?
Il suffit de regarder les chiffres. En France, plus de 100 policiers sont agressés chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions. 100 par jour, Apolline. Le nombre de suicides dans la police et la gendarmerie est de près de 60 par an. Presque deux fois le taux de la population générale. Éric Masson, tué à Avignon en 2021 pour avoir contrôlé un dealer. Xavier Jugler, criblé de balles sur les Champs-Élysées en 2017. Ahmed Merabet, achevé d'une balle dans la tête devant Charlie Hebdo en janvier 2015. La police française aujourd'hui n'est pas trop violente. Elle n'est pas trop violente. Elle est trop inoffensive.
La gauche vous répondra que la présomption de légitime défense ouvre la porte à des dérapages.
Oui, pardonnez-moi. La gauche ne défend plus les Français. Elle défend leurs bourreaux. Depuis 20 ans, LFI, une partie des Verts, une partie du PS ont fait de la police l'ennemi numéro 1 du peuple. Résultat, il n'y a plus d'ordre. Coups et blessures volontaires, plus 33% en 10 ans. Violences sexuelles, doublées en une décennie en France. Trafic de drogue, un marché à 4 milliards d'euros par an, avec ses règlements de compte, avec ses fusillades à Marseille. Et notre police est devenue tellement faible qu'un petit con de 13 ans se sent le courage de la défier.
Oui, alors là, je pense que vous faites référence à ce jeune homme proche du canal Saint-Martin.
Précisément.
Vous êtes quand même dur aussi avec l'institution judiciaire de mémoire.
Mais parce que la justice française, dans un univers normal, devait être le premier appui de sa police. Elle en est devenue, pardonnez-moi aujourd'hui, l'adversaire. On arrête un individu qui a agressé un policier, il ressort le lendemain. On interpelle un dealer, il est reconduit sur son point de vente la semaine suivante. Le délai moyen d'exécution d'une peine ferme tourne autour de 18 mois quand elle est exécutée. Les magistrats prononcent des peines qu'ils n'exécutent pas. Ils libèrent avant la fin. Ils appliquent des remises automatiques quasi mécaniques. Et pendant ce temps-là, ils poursuivent le policier qui a tiré parce qu'il avait 2 secondes pour décider si l'individu qui accélérait allait le tuer ou non. C'est une inversion morale totale qu'on vit en France.
Comment on fait pour réparer ça, Louis ?
Alors déjà, première étape positive, on adopte la loi Poget. 2, on aligne la France sur les autres grandes démocraties. C'est-à-dire que la police doit avoir le droit d'utiliser son arme sans craindre pour sa carrière. Et 2, on nettoie l'appareil judiciaire. Peine plancher, exécution immédiate, fin des remises automatiques, redevabilité des magistrats et pas leur soumission. Leur redevabilité. Et vous, l'auditeur, l'auditrice, quand vous voyez un flic dans votre quartier, bah, commencez par dire merci.
Louis Sarkozy, la voix de droite. Demain, ce sera la voix de gauche sur RMC. Cécile Duflo. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant. La météo avec cette alerte canicule sur au moins les 2/3 du pays. Et puis la une du journal de 8h. Marine Le Pen et Jordan Bardella sur le terrain aujourd'hui. Ils seront à La Flèche côte à côte. L'économie, ce sera avec Emmanuel Le Chip. Le gouvernement veut encore trouver des économies. Il nous le dira dans un instant. 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. Pas de temps à perdre donc pour Marine Le Pen en campagne. Dès ce matin, condamner mes candidates à la présidentielle. Vous allez voir que tout est prêt. Affiche, slogan et premier déplacement dès ce matin donc dans la Sarthe. De gros incendies toujours en cours au moment où on se parle dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi dans la Drôme où 2 colonies de vacances ont été évacuées dans la soirée. Et la Coupe du Monde de foot, on est à la veille déjà du quart de finale des Bleus contre le Maroc. Vous allez voir que la FIFA a eu la bonne idée de nous mettre des arbitres argentins.
Comme prévu, le Rassemblement National ne perd pas de temps.
Marine Le Pen, condamnée en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN, mais éligible et donc, elle l'a dit, candidate à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Sonia Gobry, du service politique RMC, en direct ce matin. Sa campagne commence ce matin, donc, avec un premier déplacement dans la Sarthe.
Oui, rendez-vous sur un marché à 11h à La Flèche, ville remportée par le RN aux dernières municipales, et désormais fief de Marie-Caroline, la sœur de Marine Le Pen. Le RN reste donc une affaire de famille. Ce déplacement marque le début de la campagne. Marine Le Pen veut donner le tempo. Dès hier et dans la foulée de l'annonce de sa décision, lancement du site de campagne et nouvelle affiche dévoilée. On la voit souriante, bras ouverts avec un slogan « Pour la France, la renaissance ». Un cadre du RN explique « L'idée, c'est de montrer qu'elle est inarrêtable et que le phénix renaît de ses cendres ».
Alors Marine Le Pen a décidé, vous savez bien, de se pourvoir en cassation pour pouvoir lancer sa campagne sans bracelet électronique. Le pourvoi en cassation étant suspensif, avec le risque quand même que ce pourvoi soit rejeté en début d'année prochaine et donc qu'elle soit obligée de porter un bracelet dans les dernières semaines de la campagne. Écoutez ce qu'elle en disait hier soir aux 20h de TF1.
Nous verrons et les Français en seront juges. C'est drôle tout de même de considérer les Français comme incapables de prendre une décision. Les Français seront juges. Ils vont avoir la liberté de choisir, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas le cas.
Alors Sonia, on ne savait pas qui allait être candidat pour l'élection présidentielle l'année prochaine au Rassemblement National. Finalement, donc, c'est Marine Le Pen qui promet, et elle le dit, un ticket gagnant avec Jordan Bardella.
Oui, en cas d'élection, il serait son premier ministre et il sera son premier soutien, comme prévu, assure l'entourage de Jordan Bardella. Les deux têtes du Rassemblement National ont besoin de rassurer, alors qu'on a vu des divergences ces dernières semaines, notamment sur la question des retraites. En interne, certains s'inquiètent d'un tournant trop libéral. D'autres redoutaient aussi sa candidature en 2027 parce qu'il l'estimait pas assez solide ou encore parce qu'il craignait d'être purgé. Donc Marine Le Pen reprend les manettes et certains de ses fidèles ne cachent pas leur soulagement.
Sonia Gobry, en direct ce matin pour RMC, la suite des nombreuses réactions politiques, ce sera ce matin sur RMC. Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, lui aussi condamné dans cette affaire des assistants parlementaires européens du RN, qui sera face à Apolline tout à l'heure à 8h30. Alors pendant ce temps, le gouvernement prépare 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires, sans doute sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale, cette fois en répétant que c'est à cause de la situation au Moyen-Orient, où les États-Unis ont mené de nouvelles frappes cette nuit visant l'Iran. Elles étaient absolument nécessaires, dit ce matin le chef de l'OTAN. L'Iran a riposté en visant des bases américaines. En France, c'est le combat contre le feu qui continue pour les pompiers. Et le souci, c'est que le vent s'est réveillé ce matin dans les Pyrénées-Orientales, où près de 5000 hectares de végétation ont été ravagés à l'ouest de Perpignan depuis le week-end dernier. Les habitants de deux communes ont eu l'autorisation de regagner leur maison. Il y a un autre gros feu qui a déjà parcouru 2000 hectares dans les montagnes de la Drôme à Die, où deux colonies de vacances avec 473 enfants ont été évacués dans la soirée. C'est ce que nous dit la mère de Die, Marilène Moucheron.
Les enfants ont été évacués par précaution parce que le feu reste sur la crête, mais bon, si le vent est défavorable, il peut descendre rapidement par la montagne. Il n'y a qu'une route pour pouvoir sortir de ce centre, donc il ne fallait pas que les enfants ou les secours soient pris au piège. Pour l'instant, ils continuent leur colonie, les animateurs sont avec eux, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Il y a des lits qui sont aménagés, ils vont rester là un petit moment, et lorsqu'il n'y aura plus de danger, ils pourront réintégrer leur centre.
Alors il y a 7 départements du pourtour méditerranéen qui sont au niveau le plus élevé pour les risques d'incendie. Il y a des villes qui annulent, déjà de nombreuses villes, même leur feu d'artifice du 14 juillet. Et désormais 67 départements en alerte orange canicule. Il y a de plus en plus de villes qui s'approchent ou qui dépassent les 40 degrés. Avec le ras-le-bol, comme ici à Toulouse, de passer des journées calfeutrées dans le noir pour pas laisser entrer la chaleur dans les maisons. C'est ce que nous dit Cassandre Bro pour RMC.
Bienvenue chez moi. Là on rentre, tout de suite on allume la lumière.
Oui, là tout de suite parce qu'on est complètement dans le noir tout le temps.
C'est la seule solution qu'on a trouvée pour garder quelques degrés au frais en tout cas.
Volets fermés presque 24 heures sur 24, la température de l'appartement de Khadija peut quand même dépasser les 30 degrés la journée. Elle habite avec son compagnon et leur petite fille de 16 mois.
C'est mon conjoint qui subit la journée qui travaille lui à domicile. Donc en fait il est dans le noir complet. Il est obligé d'allumer les lumières pour voir.
Elle est très inquiète pour la suite de l'été.
Si c'était 3-4 jours, on peut positiver, on sait que c'est temporaire. Mais là, de les enchaîner, c'est facile de péter un câble et d'avoir le moral à zéro, quoi.
Khadija n'est pas la seule. Nombreux sont les logements avec les volets complètement fermés dans les rues toulousaines. 10 ans que Léna habite ici, c'est la première fois qu'elle doit s'enfermer comme ça dans le noir.
Parce que sinon, c'est vraiment invivable. Si on laisse les volets ouverts à partir de 11h ou midi, il fait à peu près 30. Et les seuls moments d'accalmie, il fait nuit, quoi. Donc on réouvre, il fait nuit et on voit peu la lumière du jour, quoi. On a un peu d'appréhension sur les futurs épisodes climatiques.
La jeune femme de 27 ans envisage aussi de déménager pour se rapprocher de la mer, où elle espère trouver un peu d'air et de fraîcheur.
Et c'est encore sous une chaleur de plomb que va s'élancer la cinquième étape du Tour de France entre Lannemezan et Pau. Aujourd'hui, 158 km, normalement une étape réservée aux sprinteurs. Et avec le maillot jaune sur les épaules du Norvégien Thorsten Trine, qui était dans l'échappée victorieuse hier à Foix, où le Danois Mats Pedersen a levé les bras.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
La Suisse et l'Argentine, deux dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale. La Suisse au tir au but, c'était tard hier soir contre la Colombie. Et l'Argentine, vraiment miraculée, 3-2 contre l'Égypte après avoir été menée 2-0 jusqu'à 10 minutes de la fin. Alors aujourd'hui, il y aura pas de match à la Coupe du Monde. C'est la première journée sans match depuis le début du Mondial. En attendant le premier quart de finale, demain, ce sera celui de la France contre le Maroc. Rien ne nous est épargné, Florent Germain, pour RMC. Je le disais donc, la FIFA a eu la bonne idée de nous mettre des arbitres argentins pour ce match.
Oui, ironie de l'histoire ou petite provocation de la FIFA, le français monsieur Le Texier arbitrait hier l'Argentine au terme d'un match contre l'Égypte qui a fait débat. Et demain, un arbitre argentin a donc été désigné pour France-Maroc. Alors que la rivalité entre Français et Argentins est très forte depuis la dernière finale de la Coupe du Monde, le gardien remplace sans Robin Rissert, préfère ne pas céder à l'inquiétude.
Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Je pense que c'est votre rôle à vous aussi de faire monter cette sauce-là. Ça fait quelques années maintenant que oui, il y a une certaine amertume, on va dire, depuis la dernière finale qu'il y a eu. S'ils sont là, ces arbitres-là, c'est qu'ils sont au niveau de cette compétition.
Même discours chez son coéquipier Dayo Upamecano, qui ne veut pas se disperser.
Je ne vais pas me concentrer sur qui va être l'arbitre. J'ai jamais fait ça et on n'a jamais fait ça aussi. Donc on va se concentrer sur le Maroc et ce qu'on veut faire, c'est gagner ce match. C'est tout ce qui qui nous importe.
Et même si le staff des Bleus a mal vécu lors du dernier match très rude contre le Paraguay, le laxisme de l'arbitre, Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de rester concentrés sur leur mission sans être parasités par les nombreuses polémiques extérieures.
Alors les polémiques, il y a notamment celle qui concerne Kylian Mbappé, le monde entier qui réagit aux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne visant l'attaquant de l'équipe de France. Même l'ONU apporte son soutien à Kylian Mbappé. Et alors la sénatrice paraguayenne en question a carrément pris la parole, conférence de presse pour s'en expliquer. Elle ne s'excuse pas, mais elle reconnaît du racisme dans ses propos. Elle menace Kylian Mbappé en disant que son pays a déjà mis Ronaldinho, une star du foot, en prison. Et elle explique aussi qu'elle vient d'une génération pour qui dire, alors là je la cite, pour qui dire négro de merde est habituel.
C'est assez inouï. Il est 8h08, c'était le journal de Quentin Vinet. Et c'est le moment de vous redire que, attention, vous n'avez que jusqu'à la fin de la semaine pour faire gagner votre entreprise. 3 jours pour vous inscrire pour la 17e édition des Trophées PME. Les Trophées PME RMC BFM 2026. Vous êtes donc entrepreneur ou vous travaillez dans une entreprise qui vous plaît, que vous avez envie de mettre en valeur, une petite ou moyenne entreprise, et bien vous pouvez participer et gagner jusqu'à 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC. Too Good To Go, Blablacar, C'est qui le patron? Voilà des entreprises qui ont gagné les trophées PME et ça a été véritablement une rampe de lancement pour eux. Votre PME peut avoir cette chance. Vous vous inscrivez dès maintenant. TrophéePMERMCBFM.fr. TrophéePMERMC.fr. C'est les tout derniers jours. Donc pour vous inscrire, il vous reste 3 jours. Bonne chance à vos entreprises. Il est 8h09 et justement, on va gagner et on va parler entreprise et économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Parce que ça aura des conséquences sur toutes les entreprises. Ce qui a été annoncé hier, Emmanuel, les prévisions de croissance pour l'économie française ne cessent d'être revues à la baisse.
Et oui, vous vous rappelez, hein, en début d'année, finalement, la cible de croissance pour la France était 0,9%, partagée à peu près par tout le monde. Et puis alors, depuis ces dernières semaines, le chapelet des révisions en baisse, la Banque de France, l'INSEE, il y a quelques jours, l'OCDE qui lui dit « Ah, ce sera difficile de dépasser 0,6%. » Et puis hier, c'est Bercy qui a officialisé sa révision en baisse pour 2026 à 0,7% au lieu de 0,9%. Il faut dire que tous les moteurs de l'activité sont à la peine. La consommation est contrainte par la baisse du pouvoir d'achat, l'investissement par la situation financière des entreprises. L'immobilier cale à nouveau. Résultat, le chômage pourrait atteindre 8,4% en fin d'année, nous dit l'OCDE. Ce serait un record depuis le printemps 2019, hors période Covid, bien évidemment. Alors, la guerre au Moyen-Orient a été effectivement pour beaucoup dans cet affaiblissement de l'économie française, mais vient maintenant s'y ajouter la canicule qui, pour le coup, n'est pas encore intégrée dans ces prévisions. Alors déjà 2 depuis le début de l'année, on commence la 3e et peut-être une 4e. Or, la canicule, c'est une productivité plus basse, une énergie plus chère, une agriculture en souffrance, c'est plus de dépenses de santé. Bref, c'est 0,1 à 0,2 points de croissance en moins. Donc, encore une fois, il faut s'attendre à de nouvelles révisions à la baisse de la croissance au sortir de l'été.
Encore plus bas. Donc, le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre pour relancer l'activité, là.
Et oui, c'est la grande annonce d'hier, effectivement, puisqu'avec donc cette révision à la baisse de la croissance, eh bien, logiquement, le ministre des Comptes publics a annoncé qu'il comptait faire 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur le budget de l'État et de la sécurité sociale cette année, après déjà 6 milliards prévus. C'est ça la réalité. Quand Bercy n'a plus d'argent, c'est qu'il n'amortit plus les chocs, il les amplifie.
Et puis, des nouveaux bombardements dans le détroit d'Hormuz. Ouais. Alors, on s'intéresse plus que jamais aux chiffres de l'énergie, les chiffres du jour, Manu.
Tout est plutôt à la hausse.
À la hausse.
Nos prix des carburants qui étaient tombés à 2,09 pour le sans-plomb 95 comme pour le diesel, on commence à refranchir à la hausse la barre des 2,10 €. Coup de chaud sur les prix du pétrole, évidemment, on était à 72 $ hier, on est remonté à 76 ce matin, et puis le gaz continue sa remontée à 48 € à peu près le mégawattheure.
C'était l'économie avec Emmanuel Le Chypre, RMC, 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant, notre moment détente avec le meilleur d'Arnaud Demanche à 8h30. Notez dès à présent que mon invité dans le face-à-face, ce sera Louis Alliot, le maire de Perpignan. Lui aussi, il a été condamné hier à 1 an de prison et 2 ans d'inéligibilité, mais le tout avec sursis. Il réagira évidemment à l'annonce de candidature de Marine Le Pen et il réagira aussi à vos témoignages. Tout ce que vous nous avez dit depuis ce matin au 32-16 et nombre d'entre vous qui, tout en étant électeurs RN, ne comprennent pas la décision décision de Marine Le Pen d'y aller. Évidemment, je lui poserai la question de l'exemplarité à Louis Alliot. Et puis juste après, il y aura le choix de la rédaction, Mathieu.
Les lieux touristiques désertés, certaines activités aussi. La canicule ne fait pas forcément les affaires des professionnels. C'est le choix de la rédaction ce matin. Et puis, on connaît, ça y est, tous les quarts de finalistes de la Coupe du Monde, les dernières infos du Mondial avec Virginie Fulpin.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et on vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demange. Arnaud Demange qui parle cinéma. Arnaud Demange est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour les amis. Ça fait du bien d'attaquer une nouvelle semaine avec vous sur RMC. RMC, la seule radio qui ne vous parle pas de Pierre Ninet toutes les 3 minutes. Non, mais c'est fou en ce moment. T'allumes un écran, boum, il est là. C'est le Alain Bauer du cinéma. Je n'en peux plus. Je mange Pierre Ninet, je dors Pierre Ninet. Hier, j'ai fait l'amour avec ma femme. Elle m'a dit, à quoi tu penses? J'ai même pas osé répondre. Il est obsédant, ce type. J'adore Pierre Ninet, hein, mais bon, j'aime aussi le chocolat. C'est pas pour autant que j'en bouffe 12 kilos par jour.
Un coup de tonnerre, Arnaud, s'est produit ce week-end dans la campagne présidentielle pour 2027.
Oui, c'était un week-end choc, ouais. Une journée charnière. Apolline, Lucie Castet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate.
Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Je sais, ça fait quelque chose. C'est fou, hein, le parcours de Lucie Castet. Quel destin. Il y a un an, personne la connaissait, tout le monde s'en foutait. Et maintenant, regardez... Tout le monde s'en fout aussi, sauf qu'on la connaît. On n'avait pas vu une telle carrière politique depuis Stanislas Guérini. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, Stanislas Guérini aussi renonce à 2027.
Oh non, me dites pas ça.
Et à 2032. Oh. Il ne l'a pas déclaré encore, je le fais à sa place, hein, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Arnaud, 3 millions de documents relatifs à l'affaire Epstein ont été divulgués par la justice américaine.
Et c'est atroce. On lit des monstruosités sur les célébrités qui se rendaient dans des soirées de débauche. Moi, j'ai épluché quelques pages en me disant « Pourvu que Thomas Pesquet soit dedans !» Eh bien, figurez-vous que ce salaud n'y est même pas. Il n'y a vraiment décidément rien à lui reprocher. Monsieur parfait. Épuisant.
Vous sinon, faites une petite obsession peut-être sur Thomas Pesquet et Pierre Ninet.
Hein, les deux. J'arrive pas à les détester. Sinon, il y a énormément de célébrités. Donald Trump, le prince Andrew, c'est accablant pour eux. Ils sont à un point où Bolloré peut leur proposer une quotidienne. Et sur Twitter, dans les forums, j'ai vu aussi Woody Allen, Bill Gates, Cyril Ferraud. Grosse surprise, les photos de Cyril Ferraud tout nu avec les nains de Fort Boyard et Nagui. Oh, vous avez vu ça? Ah ça, non. C'est pas Théo Curin qui aurait eu les mains baladeuses comme ça.
Oh, non.
Pareil, les vidéos entre Jeffrey Epstein, les frères Lebrun et Lynn Renault.
Oh,
énorme choc. Vous savez pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec du maroilles et des raquettes de ping-pong. Vous étiez au courant? Et alors les photos de Bill Gates avec Jean-Jacques Goldman, alors là c'est le pompon. Surtout la partie avec la crème fouettée, les pinces à linge, les tuyaux en plastique, le lubrifiant et les hamsters. Et Michel Drucker qui filme, vraiment, c'est épouvantable. Attention, il paraît qu'il y a beaucoup de témoignages farfelus dans les 3 millions de pages. La séquence zoophile avec Danny Boone et Grand Corps Malade,
non,
c'est peut-être un fake. Attention à ce que vous lisez sur Internet.
Allez, ce que vous entendez sur RMC.
Gros bisous.
Merci Arnaud Demange, qu'on retrouve à tout moment en
et
podcast. Sur RMC.fr. C'était Arnaud Demange dont on a gardé le meilleur et vous pouvez évidemment le retrouver à tout moment en podcast.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h19 et vous l'avez entendu, très très nombreuses réactions à la décision de Marine Le Pen d'être candidate malgré tout. Mathieu, lui, nous appelle du Cher. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline.
Comment ça va? Vous êtes conducteur routier. Vous en pensez quoi, vous?
Bah écoutez, moi je suis plutôt pour. J'estime que la candidate naturelle du parti. Et je pense qu'on aurait beaucoup taclé Bardella sur son manque d'expérience et son jeune âge. Donc, je trouve qu'elle est non, elle est naturellement. Après, c'est les électeurs, comme on le dit, qui jugeront.
C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Hein, elle dit, et c'est d'ailleurs ce que dit aussi la Cour d'appel de Paris. Hein, la Cour d'appel de Paris qui dit qu'ils ont pris en compte l'idée que il fallait qu'il y ait un suffrage démocratique. Et elle dit, c'est les Français qui jugeront. Vous, le fait qu'elle ait été condamnée, ça ne rentre pas en ligne de compte.
Non, pas spécialement, parce que j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, toute la classe politique, il y en a beaucoup qui ont été aussi condamnés pour diverses choses et variées. On a Mélenchon qui, normalement, si je dis pas de bêtises, a une enquête aussi pour les mêmes, plus ou moins les mêmes faits. Donc, à un moment donné, chacun vote en son âme et conscience. J'estime que, enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça.
Vous votez en votre âme et conscience. Vous votiez RN, vous votez RN, vous voterez RN.
Ouais.
Voilà. Et ça aurait été Bardella, vous auriez voté quand même.
Oui, tout pareil, parce que voilà. Je pense que beaucoup d'électeurs du RN ont une colonne vertébrale. Enfin, je veux dire, nous, c'est pas un candidat qu'on choisit, c'est un parti, c'est des idées, c'est voilà.
Merci beaucoup, merci d'avoir réagi ce matin. Mathieu qui nous appelait du Cher, il est 8h20 et c'est l'heure de vous offrir vos vacances et de féliciter Sylvie. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup. Sylvie, bonjour. Vous m'entendez?
Oui, c'est Jean. J'entends.
C'est vous?
Bonjour.
J'entends en fond sonore que vous avez la télé, la radio. C'est très bien Sylvie, c'est très bien Sylvie. Mais là Sylvie, vous êtes dans la radio. Vous êtes retraitée, c'est ça, dans les Alpes-Maritimes?
Oui, exactement.
Eh bien, félicitations, vous allez pouvoir bouger, peut-être aller à la mer.
Oui, à la mer ou à la montagne.
À la mer ou à la montagne, mais à la mer ou à la montagne, vous êtes entre les deux, c'est simple, Sylvie, non?
Oui, c'est ça, exactement. On n'a rien fait qui soit, donc c'est parfait.
On est très, très, très heureux de vous avoir offert ces vacances. Félicitations, Sylvie. Vous avez donc remporté un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir plus de 45 destinations, mer ou montagne. Vous nous avez dit que vous, le cœur balance entre mer et montagne. Bellambra s'occupe de tout, les enfants, les activités, les repas, le tout compris premium. Je crois que je vais partir avec vous Sylvie. Allez, félicitations en tout cas, il est 8h21 et vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, la politique, Louis Alliot est mon invité. Louis Alliot, le maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National, lui aussi d'ailleurs condamné hier. Est-ce qu'il se pourvoira en cassation? Sa réaction bien sûr à la candidature de Marine Le Pen, candidate mais condamné. Louis Alliot, dans un instant sur RMC BFM TV. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et Marine Le Pen qui lance ce matin sa campagne à l'élection présidentielle. Elle qui est candidate malgré sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Elle se pourvoit en cassation pour éviter de porter un bracelet électronique durant cette campagne. Son site internet a été lancé dans la soirée en même temps qu'elle était aux 20h de TF1. Son affiche et son slogan aussi, pour la France la renaissance, voilà le slogan. Et premier déplacement de campagne ce matin dans la Sarthe à La Flèche. Précisément, c'est une ville qui a basculé RN aux dernières élections municipales. Toujours deux gros incendies en cours ce matin. Le souci d'ailleurs, c'est que le vent s'est réveillé. La Tramontane dans les Pyrénées-Orientales, où près de 5000 hectares de végétation ont été ravagés à l'ouest de Perpignan depuis le week-end dernier. Il y a 800 pompiers qui sont mobilisés. Les habitants de deux communes ont eu l'autorisation hier de regagner leur maison. Il y a un autre gros feu qui a déjà parcouru 2000 hectares dans les montagnes de la Drôme à Die, où deux colonies de vacances avec 473 enfants ont été évacués dans la soirée. Le feu progressait toujours au dernier bilan. Il y a 7 départements qui sont au niveau maximal pour le risque d'incendie et il y a déjà des villes qui annulent de plus en plus d'ailleurs leur feu d'artifice du 14 juillet. La France exprime ce matin son profond regret. C'est une réaction à la décision du CIO, le Comité international olympique, de lever une partie des restrictions imposées aux sportifs russes qui pourront donc se préparer et participer au JO de 2028 à Los Angeles aux États-Unis, même dans les sports d'équipe plus de 4 ans après l'invasion russe en Ukraine, mais alors sans hymne et sans drapeau pour ces athlètes russes. La fin des huitièmes de finale à la Coupe du Monde, c'était hier soir, la Suisse qualifiée au tir au but contre la Colombie et l'Argentine de Léo Messi miraculée 3-2 contre l'Égypte après avoir été menée 2-0 jusqu'à 10 minutes de la fin. On est à la veille du premier quart de finale de ce mondial entre la France et le Maroc. La 5e étape du Tour de France aujourd'hui, normalement pour les sprinter entre Lannemezan et Pau au lendemain de la victoire à Foix du Danois à Mads Pedersen et du maillot jaune qui a été récupéré en échappée par le Norvégien Thorsten Strain. Et puis ce sera sous la chaleur aujourd'hui sous le Tour de France parce que 67 départements, les deux tiers du pays sont en vigilance orange pour la canicule. Cet après-midi pour les températures, on attend 27 à Biarritz, 29 à Nice, mais quand même 35 à Paris, 36 à Bordeaux, 37 à Lyon, 38 à Toulouse, 39 à Marseille, jusqu'à 42 à Perpignan. La canicule qui va se poursuivre dans les prochains jours avec une intensification des températures minimales dès la nuit prochaine.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité est vice-président du Rassemblement National, Louis Alliot. Réaction évidemment, non seulement à la condamnation mais à l'annonce de candidature de Marine Le Pen. Lui-même, Louis Alliot, a été condamné hier. Va-t-il faire appel auprès de la Cour de cassation? Réponse dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Perpignan, vous êtes premier vice-président du Rassemblement National. Vous-même, vous avez été condamné hier à 1 an de prison et 2 ans d'inéligibilité, le tout avec sursis. Est-ce que vous saisirez la Cour de cassation? Je vous pose évidemment la question dans un instant, mais d'abord, Marine Le Pen, condamnée, qui se pourvoit en cassation et qui se présente à l'élection présidentielle. Est-ce que, honnêtement, il fallait prendre un tel risque?
Écoutez, au regard de la situation du pays et des attentes de l'opinion, je pense que effectivement, il fallait qu'elle aille au bout de ce chemin-là. Et c'est la Cour d'appel qui lui permet d'aller au bout de ce chemin-là. Je rappelle que dans une démocratie comme la nôtre, vous avez un jugement de première instance qui peut vous condamner à la mort politique, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, et que un peu plus d'un an après, un autre tribunal, une cour, avec des juges un peu plus expérimentés, rend un arrêt, un jugement qui permet justement de pouvoir se présenter. Là déjà, je trouve qu'il y a dans cet état-là quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, mais ça veut dire aussi
beaucoup plus clément effectivement au deuxième jugement, même si elle est condamnée malgré tout.
Exactement. Ça veut dire donc que l'émoi qu'a suscité ce jugement de première instance, quoi qu'on en pense, etc., a obligé, si je puis dire, la hiérarchie de la Cour d'appel d'accélérer le calendrier pour permettre un jugement. Et aujourd'hui, Marine Le Pen a fait son choix de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.
Avec, on va y revenir, cet argument effectivement de la Cour d'appel de Paris hier, de dire avoir choisi délibérément de considérer qu'il fallait laisser la liberté de choix à l'électeur. Mais Louis Alliot, il y a un risque, c'est-à-dire que Marine Le Pen, certes, a pu être candidate, elle est condamnée, mais elle peut être candidate, et c'est le choix d'ailleurs qu'a fait la Cour d'appel de Paris, mais elle décide en plus de se pourvoir en cassation. Et ça fait planer à nouveau une sorte d'épée de Damoclès, parce que potentiellement, dans quelques mois, si la Cour de cassation décide d'accélérer le calendrier, elle pourrait avoir un bracelet électronique, elle pourrait même revenir à la décision de la première instance.
Ça non.
Non, vous n'y croyez pas?
Ah non, les juristes qu'on consulte et mes propres connaissances vous diront que non. Mais
il n'y a aucun risque, vous avez vraiment analysé j'imagine tout cela, même si c'était en temps record hier après-midi, il n'y a aucun risque.
Il faut rappeler que l'accélération du calendrier est due à ce jugement de première instance, que si le jugement avait été celui de la Cour d'appel, il n'y aurait pas eu de souci, l'appel se serait fait très certainement, d'ailleurs, peut-être après la présidentielle, en tout cas le résultat, et donc il n'y aurait pas eu toute cette affaire. Là, aujourd'hui, à partir du moment où Marine Le Pen peut se présenter grâce à cet arrêt de la Cour d'appel, il n'y a plus urgence à ce que la Cour de cassation se prononce.
Là-dessus qu'à mon avis, vous faites un peu un pari.
Non, mais c'est pas un pari. On rentre aujourd'hui dans une procédure normale de cassation
vous espérez qu'elle prenne son temps.
Pour n'importe quel justiciable en France aujourd'hui, un pourvoi, c'est 12 à 18 mois. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on est en appel avec une décision. Cette décision permet à Marine Le Pen d'être candidate. Donc la Cour de cassation devrait, si je puis dire, revenir à des délais habituels, entre 12 et 18 mois.
Alors, ce n'est pas ce qu'a l'air de dire la présidente de la Cour d'appel de Paris, qui considère que, même si c'est à la Cour de cassation de décider de la rapidité ou non avec laquelle elle rendra cette décision, mais malgré tout, elle dit, si la décision de la Cour de cassation est rendue dès janvier, alors je demanderai l'application des peines à partir de ce moment-là.
Oui, ben écoutez, on verra bien.
En fait, vous espérez que pour une fois, il fasse rien de spécial pour vous, quoi. C'est-à-dire que là, la Cour d'appel de Paris, à l'inverse, vous aviez demandé à ce qu'ils accélèrent le calendrier, ils l'ont fait. Et là, la Cour de cassation, vous vous dites, non, prenez votre temps.
Dans la situation du pays, on ne peut pas réfléchir avec le calendrier judiciaire. Il y a un calendrier politique. Il faut s'inscrire dans cette campagne présidentielle parce qu'on a un programme à défendre. Je pense que nous sommes les seuls à pouvoir aujourd'hui préserver l'intérêt de la France face à nos adversaires et nous allons faire cette campagne présidentielle.
Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe, Louis Alliot? C'est-à-dire que non seulement, on va y revenir vis-à-vis des électeurs, la question de la condamnation, malgré tout, prononcée 2 fois par 2 tribunaux différents, certes avec une peine plus clémente la 2e fois, mais la condamnation
est maintenue. Ça veut dire des choses, quand même.
Et puis, cette question, se lancer dans une campagne où on va vous parler, en tout cas au début, forcément de ces différents scénarios, parce que les Français ont besoin de savoir, est-ce qu'ils peuvent légitimement se dire qu'elle va être candidate jusqu'au bout? Il y a un doute qui persiste.
Madame Malherbe, depuis 12 ans que moi je suis dans cette affaire, il n'y a pas une émission où on ne me pose pas la question sur l'affaire. Ça a changé quoi? Rien. J'ai été élu député. J'ai été élu maire, j'ai été réélu maire au premier tour en toute connaissance de cause.
Alors que
les gens ont bien fait la différence entre enrichissement personnel et pas d'enrichissement personnel. Ce n'est pas une affaire de détournement de fonds publics qu'on pourrait trouver dans d'autres circonstances. C'est une affaire de qualification d'un emploi que nous avons utilisé pour faire de la politique, alors que, et c'est là où nous avons une différence d'appréciation avec les juges nous disent qu'ils n'auraient plus dû faire que du travail pour un député européen.
Oui, mais
Non.
C'est ce que dit, en tout cas, les deux tribunaux disent. Vous saviez que c'était pas le mode d'emploi,
si
que c'était pas la règle du jeu.
Mais non, on savait pas parce que l'Union européenne a changé ses règles pratiquement à chaque mandature parce qu'elle trouvait que ces règles n'étaient pas claires. Et encore il y a deux jours, au bureau du Parlement européen, ils ont encore discuté de changer les règles parce qu'ils trouvent que c'est pas justement très très clair les textes en question. Donc on voit bien que face à cette incertitude, nous pensons que nous avons motif là aussi pour inscrire un pourvoi. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, parce que je pense que
c'est ce que vous allez faire. Vous nous dites ce matin, Louis Alliot, que vous pourvoyez en cassation du jugement qui vous touche.
Oui, je vais faire un pourvoi en cassation, parce que je trouve que cette peine est encore excessive me concernant, même si, je le rappelle, première instance, 3 ans d'inéligibilité, là, c'est du sursis, 2 ans, mais sursis, c'est quand même pas la même peine. Et c'est vrai que la magistrate, la présidente de la cour d'appel, a donné cette phrase sur le suffrage universel, le droit des électeurs et le droit d'être candidat, qui est, je crois, la reprise de ce que le Conseil constitutionnel a lui-même relevé dans une décision récente. Et donc, il faut quand même s'inscrire sur la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, ce sont les électeurs qui feront le choix.
De ce point de vue-là, vous saluez l'attitude de la justice française, de s'être dit et de l'avoir écrit noir sur blanc comme l'un des arguments de leur décision, qu'il fallait vous laisser être candidat, laisser le choix aux Français.
Alors ça, c'est déjà, je le salue évidemment, mais je salue aussi le fait, et heureusement, qu'il y a plusieurs degrés de juridiction. Parce que je vois certains qui critiquent...
C'est pas mal la justice française finalement.
Le système est pas mal fait, oui. Après, il y a l'attitude de certains, mais le système est pas mal fait. Mais... vous voyez bien que quand on nous reprochait de critiquer le jugement de première instance, j'allais vous dire heureusement qu'on l'a critiqué. Parce que cette critique de ce que l'on considérait comme une injustice a été partiellement, moi je pense trop partiellement, atténuée en appel. Et il reste encore une autre voie de recours qui est le pourvoi en cassation.
Vous pourvoyez donc en cassation, on va y revenir, mais je voudrais aussi qu'on s'intéresse aux électeurs. La question de l'exemplarité. Marine Le Pen, en 2013, elle s'était dite favorable, je cite, à une inéligibilité à vie des politiques condamnés. Quand je réclame éthique et politique, éthique et morale, je me l'applique à moi-même. Voilà ce que disait Marine Le Pen. Dans son livre « Pour que vive la France », elle plaidait pour que l'arme de l'inéligibilité soit utilisée, je cite, avec beaucoup plus de rigueur. Et en 2013, dans le contexte de l'affaire Cahuzac, elle disait « Les Français ne sont pas dupes, tout le monde est éclaboussé, l'UMP et le PS ont des listes condamnés qui sont inouïes. » Et il cherche à dire « Ah, vous voyez, le FN, eh bien non, disait Marine Le Pen, le FN, non. Moi, ma veste est immaculée, ils auront beau s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir. » Aujourd'hui, elle est condamnée.
Nous sommes... considéré aujourd'hui comme innocent par le pourvoi en cassation.
Et je répète. Vous êtes innocent, vous êtes considéré.
Et que je répète, nous nous considérons comme innocents des faits qu'on nous reproche. Donc on va aller en cassation pour faire valoir notre vision des textes et de quelques faits. Et puis, une fois que la condamnation sera définitive, nous verrons bien. Mais pour l'instant, on doit être réputé innocent, comme le veut le droit français.
Tout à fait précis, je ne suis pas moi-même magistrate, mais j'ai reçu ce matin le président d'un des syndicats des magistrats qui précisait que le pourvoi en cassation suspendait les peines, mais ne suspendait pas la condamnation. C'est-à-dire le fait même que vous soyez condamné.
Oui, mais encore une fois, je vous ai dit que les électeurs ont bien fait la différence
alors
entre
justement.
Des affaires d'assistants parlementaires et des affaires, par exemple, attendez.
D'enrichissement.
Oui, non, mais par exemple, M. Cambadélis du PS qui a utilisé son enveloppe de député pour payer je ne sais quoi, y compris d'ailleurs sa cotisation au Parti Socialiste, a été condamné. Bon, c'est passé assez discrètement, mais enfin, lui, pour le coup, c'est une affaire de sous. À titre personnel, nous, cette affaire d'assistant, il n'y a pas un centime dans nos poches. Voilà. Je le répète, c'est l'utilisation d'assistants parlementaires, j'allais dire, qui ont fait du travail politique, comme l'ont fait tous les partis depuis, j'allais dire.
Peut-être pas avec la même échelle, peut-être pas avec la même ampleur.
Mais si, regardez, le MoDem a été relaxé pratiquement sur tout, a eu du sursis d'ailleurs. On se rapproche un peu du jugement du MoDem avec l'arrêt de la Cour d'appel. Mais M. Bayrou a eu un non-lieu. Et M. Mélenchon, pour les mêmes faits, n'a même pas eu, lui, de poursuite.
Et lui-même voilà. Vous a répondu en disant que vous mentiez.
Oui, ça, écoutez, vu de M. Mélenchon, on a vu comment il traite la justice, la République, c'est lui. On sait très bien qu'aujourd'hui, Mme Chikirou, pour sa campagne présidentielle, est poursuivie pour escroquerie. Donc, c'est pas lui de donner des leçons quand même.
Louis Alliot, je voudrais que vous écoutiez les propos et les réactions de certains de vos électeurs. Pas tous, mais certains sont vos électeurs. Parmi mes auditeurs ce matin, qui étaient très nombreux à réagir sur RMC, je voudrais que vous écoutiez ce qu'ils disent.
Avoir une présidente de la République qui est condamnée par la loi à deux reprises, bah j'avoue que ça me fait un petit peu tiquer et moi j'ai mal à ma France.
C'est même pas choqué, en fait c'est déçu. Il y a quelques temps, elle a dit que sous bracelet électronique, elle ne ferait pas campagne, elle ne pouvait pas être candidate. Elle arrive aux 20h, elle dit « je suis candidate ». Bah, je suis désolé, moi j'ai voté RN aux deux dernières présidentielles, à la dernière législative. Et là je suis en train de me dire finalement, cette dame, elle est comme beaucoup de politiques, elle a pas de parole.
L'entêtement de Marine Le Pen à vouloir se représenter me fait penser à Mélenchon. Moi, la République, on la sert, on ne se l'appartient pas.
La comparaison
c'est
même
que
avec,
les trois que vous avez
avec Jean-Luc
trouvé,
Mélenchon. Non, non, j'en ai eu plus ce matin. J'en ai eu un, et d'ailleurs, je vous le précise aussi, Mathieu, électeur RN, qui lui est satisfait qu'elle y aille et qui dit qu'elle soit condamnée ne change rien à mes yeux. Ce qui m'a intéressé en particulier, c'est notamment cet électeur qui a voté pour vous aux deux dernières présidentielles et aux dernières législatives. Là, il dit pas qu'il va voter pour quelqu'un d'autre, mais il dit qu'il est déçu et que cette fois-ci, il a un peu le sentiment que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous dites, la République, c'est moi, et en fait, je décide de ce que je veux.
Parce qu'il y avait une grande confusion sur le fait qu'elle ait le bracelet électronique ou pas, à partir de où elle l'a pas, qu'elle se lance en campagne, il y a pas matière.
Et si elle l'a à la fin, comme le dit la présidente de la Cour d'appel de Paris, qui dit, eh bien, si le jugement la décision de la Cour de cassation est rendue au printemps, elle aura un bracelet électronique.
Nous n'y sommes pas, et nous verrons bien, hein, mais pour l'instant, la Cour d'appel permet à Marine Le Pen d'être candidate, et donc elle est candidate à l'élection présidentielle.
Comment ça s'est décidé?
Bah écoutez, on a été, j'allais dire, sur le fait que l'inéligibilité a été purgée, j'allais dire, à l'audience, comme l'a dit la présidente de la Cour. Et donc, à partir du moment où l'inéligibilité est purgée à l'audience, le pourvoi est possible. Et donc, vous pensez bien que Marine Le Pen, s'il y a un pourvoi, eh bien, elle prend le pourvoi parce qu'elle se considère comme innocente dans cette affaire.
Donc Louis Alliot, vous nous dites ce matin que Marine Le Pen, dès la lecture de la décision hier dans la salle du tribunal, a immédiatement considéré que elle
était
candidate.
Je vous dis pas immédiatement, elle a consulté ses avocats, elle a consulté un avocat après la Cour de cassation pour regarder évidemment l'ensemble des problèmes, des griefs et des possibilités. Et c'est après des discussions, une réflexion que nous avons eue au siège du mouvement.
Vous avez échangé, il y a eu débat?
Oui, bien sûr, il y a eu
Est-ce
débat.
Est-ce que certains certains doutaient de l'efficacité de cette décision?
Non, il y avait juste des précisions apportées sur les conséquences du pourvoi, parce qu'il y avait une grande confusion. Beaucoup de juristes,
beaucoup de juristes disaient
n'importe quoi d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient
Est-ce
pas
que vous êtes sûr que les juristes que vous suivez sont les bons?
Est-ce que vous êtes
non, mais
sûr
je sais
que,
pas.
Est-ce que vous êtes sûr que des vôtres?
Non, mais j'en sais rien. J'avoue moi-même trouver extrêmement
mais
complexe que
jamais...
certains aient une lecture et
Exactement,
les autres différentes. D'ailleurs,
mais
la première instance et la deuxième instance ont des lectures différentes. Les jurys sont des lectures
cette
différentes.
Cette complexité.
Oui, mais est-ce qu'on peut
cette
jouer
complexité
l'élection sur un pari?
Tant précisément à inscrire ce pouvoir en cassation.
Précisément ce que vous dites,
que
vous dites que c'est confus. Est-ce qu'on peut
oui, mais
jouer une élection présidentielle sur
400,
quelque chose d'aussi confus?
Sur le 432.15, je vais revenir parce que c'est compliqué, du code pénal. Par exemple, dans l'affaire Sarkozy, le juge dit on ne peut pas condamner M. Sarkozy pour détournement de fonds publics parce que précisément les fonds sont internationaux. comme d'ailleurs l'Union européenne est considérée comme une institution internationale. Et de la même manière, dans une autre affaire, c'est l'affaire Dati, on ne peut pas poursuivre Madame Dati pour détournement de fonds publics parce que les députés européens, on ne peut pas les poursuivre pour ça.
Je suis pas sûr que vous comparez. Voilà. À Madame Dati ou à Monsieur Sarkozy, soit tout à votre honneur. Mais là, sur le plan judiciaire.
Mais moi, je vous parle pas du fond de l'affaire, je vous parle des principes. Si des juges disent ça pour certains, ils sont bien obligés de le dire pour d'autres. Et si donc il y a une contradiction entre plusieurs paroles de juges, c'est à la Cour de cassation de prendre la décision.
Louis Alliot, pourquoi pas Jordan Bardella?
Oui, pourquoi pas Jordan Bardella?
Non, mais je veux dire, finalement, est-ce que c'était pas le moment de lâcher l'affaire? De se dire, Jordan Bardella est prêt, nous, il y a quand même un petit risque, on le voit.
Mais je veux dire, Marine était la candidate naturelle. Si elle était empêchée, c'était Jordan Bardella. Mais à partir du moment où elle n'est pas empêchée, il n'y a aucune raison. Mais je vous signale que depuis maintenant plus de 5 ans, ils forment un duo. Voilà. Et ce duo est performant. Il a gagné pratiquement toutes les élections, 2 européennes et un certain nombre d'autres élections. Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête en route? Cette présidentielle sera une présidentielle menée par 2 personnalités, Marine Le Pen qui est candidate à l'élection présidentielle et Jordan Bardella qui sera son premier ministre. Je veux dire, on est les seuls à avoir cette situation, à avoir cet atout. Pourquoi voulez-vous qu'on s'en passe?
Louis Alliot, il y a les électeurs et puis il y a les 500 signatures et les banquiers. Les 500 signatures, c'est bon, vous les aurez, il n'y a pas de doute.
Oui, non, il n'y a pas de doute.
Les banques, est-ce qu'elles vont vous suivre? Alors que, je le disais et on l'entend bien, il y a quand même encore certains juristes qui disent que potentiellement, là, dans quelques mois, elles se retrouvent soit avec un bracelet électronique,
Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est pas le
c'était
problème.
C'était déjà pas évident quand même la dernière élection.
Oui, mais ce qui n'est pas normal en démocratie quand même, parce que là, ça dépasse le cas de Marine Le Pen. Nous sommes en démocratie, il y a des partis politiques, article 4 de la Constitution, et il y a des banques qui refusent de prêter à des partis politiques solvables. C'est ça qui est inquiétant pour la démocratie. Si François Bayrou avait décidé de faire la banque pour la démocratie,
il avait promis de faire la banque pour la démocratie et il avait d'ailleurs, je crois, symboliquement décidé de donner sa signature à Marine.
Et d'ailleurs, les banques sont très hypocrites parce que dans leur fichier clientèle, eh bien, il y a au moins 40% des gens qui votent au Rassemblement National. Ils ne les veulent plus comme clients. Donc ces banques devraient jouer le sens de l'intérêt général, le sens de la démocratie, du pluralisme politique et prêter comme ils prêtent à toutes les entreprises aujourd'hui. En tout cas, on l'imagine, c'est moins le cas.
Vous n'avez pas de doute? Moi, vous n'avez pas de doute, vous ne vous dites
mais
pas.
Je n'imagine pas qu'une élection présidentielle soit contrariée par le fait que des banques privent certaines formations politiques et certains candidats de prêts bancaires alors qu'ils ont les moyens de les rembourser. Ça, effectivement, je n'imagine pas.
Juste un mot, parce que chez vous, il y a des incendies très graves. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Les Pyrénées-Orientales extrêmement touchées. Est-ce que ce matin, d'après vos informations, les choses sont sous contrôle? Est-ce que vous êtes inquiet?
Les choses s'améliorent. Nous avons été inquiets pendant 48 heures. Des villages ont été évacués. Mais tout est en train de revenir à la normale. Et j'allais dire, la saison estivale va commencer. Et je le dis aux gens qui nous regardent, venez et évidemment, tout sera fait pour que vous soyez accueillis, évidemment, dans les meilleures conditions.
Donc tout est à peu près sous contrôle face à cette canicule qui revient. Merci beaucoup Louis Alliot d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National et vous l'avez annoncé à notre micro. Vous vous pourvoyez donc en cassation contre le jugement qui a été rendu contre vous hier. Merci à vous. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, vous restez bien sur RMC. Dans un instant, le choix de la rédaction avec les professionnels du tourisme qui s'adaptent aux fortes chaleurs. Elles sont encore annoncées pour les jours qui viennent. Et puis le mondial de Virginie. Virginie Fulpin, à tout de suite.
RMC, à bon matin.
Il est 8h50, vous êtes sur RMC, le mondial de Virginie, c'est avec vous Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant avec vous, les dernières infos de la Coupe du Monde, avec les derniers huitièmes de finale, c'était hier soir. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Vincent Chevalier, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le correspondant d'RMC en région lyonnaise. Face à la canicule, toutes les activités de loisirs ne sont pas égales. Et ça ne fait pas forcément les affaires du tourisme, alors que les grandes vacances viennent tout juste de commencer. À commencer, Vincent, par les loueurs de vélo.
Eh oui, sous un soleil de plomb avec 40 degrés au baromètre, difficile d'imaginer des familles enfourcher des vélos. Jérôme en fait la mère expérience, il est loueur de Rosalie, ces sortes de calèches à pédales le long de la plage du Canet en Roussillon.
Ah ben, il a fait très chaud, donc évidemment les gens, la journée il n'y a pas grand monde, ils sont plus à la plage où ils restent bien au frais à la maison, c'est assez calme.
Les vacanciers sont habitués aux fortes chaleurs, mais ils restent prudents. Jérôme a donc dû s'adapter.
Moi, j'ai pris l'initiative de rester ouvert jusqu'à tard le soir. Les horaires habituels, normalement, c'était de 10h le matin vers 19h, 20h. Et puis, bon, ben, moi, ça fait depuis l'année dernière, j'ai mis jusqu'à minuit, justement, pouvoir laisser aux clients le plaisir de pouvoir faire de la Rosalie, mais en soirée, pour qu'ils soient dans la fraîcheur et pas en plein soleil.
Alors, la canicule frappe aussi durement le centre de la France et les châteaux de la Loire souffrent aussi.
Ben oui, hein, canicule et climatisation n'étaient pas vraiment d'actualité au 15e et 16e siècle. Les pierres ont engrangé la chaleur ces dernières semaines et les salles surchauffent. Résultat, 10% de fréquentation en moins le mois dernier par rapport à juin 2025 au château de Chenonceau. Eva Syndic, chargée de communication.
Forcément, ça joue aussi sur les comportements des visiteurs et aussi des annulations, par exemple pour les scolaires notamment, ou les groupes déjà programmés. Certains ont annulé parce que forcément, leur circuit était trop chaud, trop brûlant. On essaie d'adapter à chaque fois pour que l'accueil soit optimal.
Malheureusement pour eux, difficile de faire des aménagements dans des bâtisses protégées, alors des châteaux tentent de faire courant d'air, installent des ventilateurs ou ferment les volets, voire carrément ferment leurs portes.
Alors forcément, Vincent, les lieux climatisés semblent bénéficier de ces températures.
Effectivement, à commencer par les cinémas. Le mois dernier a été plutôt positif. Sur la troisième semaine de juin, les entrées ont augmenté de 60% par rapport à l'année dernière. Des établissements, il faut le dire, bien aidés par la fête du cinéma et par des sorties importantes. Et puis du côté des musées, le premier bilan semble aussi réjouissant. En tout cas, du côté de Lyon, par exemple, plus 14,3% d'entrées entre juin 2025 et juin 2026.
Alors, quant aux activités en plein air, évidemment, elles dépendent énormément de leurs offres, Vincent.
Mais effectivement, on vient de parler du vélo, mais on peut aussi évoquer les parcs d'attractions. Disneyland, obligé de fermer des manèges ou de modifier des spectacles nocturnes. Quand les parcs aquatiques surfent sur une vague très favorable, Sylvain Petitjean, directeur de l'Aqualand sur le bassin d'Arcachon.
C'est vrai que dont on a connu un très bon début de saison par rapport à l'an passé, avec une progression d'environ 15% par rapport à l'an passé, et donc qui se justifie effectivement essentiellement par la météo exceptionnelle que nous rencontrons.
Autre succès en ce moment, les grottes comme celle de Bétarame dans les Pyrénées-Atlantiques. 20 à 30% de fréquentation en plus les jours de forte chaleur. En même temps, vous allez l'entendre, les arguments sont assez convaincants. Guylain Ross, le directeur.
On a 80 mètres de dénivelé entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et on a 14 degrés quand on est dans la grotte. Et à la partie inférieure, quand on retrouve la rivière où il y a un petit passage en bateau, là, on a 12 degrés. Les gens ne voudraient pas ressortir de la grotte.
On peut évidemment les comprendre, hein, mais d'autres activités comme le canoë-kayak en profitent aussi, même si la sécheresse tarit les cours d'eau et complique les descentes dans certains territoires.
Merci Vincent Chevalier, correspondant à Lyon pour RMC. On connaît tous les quarts de finalistes de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. L'Argentine et la Suisse sont donc les derniers qualifiés. La Suisse a éliminé la Colombie au tir au but. Et l'Argentine, miraculée, disons-le, face à l'Égypte. Les quarts de finale commencent demain.
Oui, demain. Pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de match de Coupe du Monde aujourd'hui. On peut regarder Pierrot le fou ou écouter RMC. On vous promet même du foot ce soir. Mais honnêtement, c'est le premier jour sans Coupe du Monde depuis le 10 juin. Ça fait toujours un peu bizarre d'être privé comme ça d'un seul coup de sa dose quotidienne. On a qu'à écouter de la musique pour tromper l'ennui.
On s'ennuie.
Le résumé d'Alain Souchon, je suis assez d'accord.
Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le Tour de France. Et sinon, le premier quart de finale, c'est France-Maroc demain soir.
On trépigne un peu, mais il n'y a qu'une raison qui peut nous faire dire que le match arrive trop tôt. C'est la blessure d'Aurélien Tchouaméni. Il y a de forts risques que le milieu de terrain des Bleus soit forfait encore demain, comme il l'était pour le match contre le Paraguay. Il ne s'entraîne pas avec les autres. Alors qui pour le remplacer? A priori, Manu Koné devrait une nouvelle fois être titulaire aux côtés d'Adrien Rabiot, c'est-à-dire comme samedi.
Mais les Bleus ne s'ennuient pas, hein, eux, avant le quart de finale.
Non, entre les entraînements, les mises en place tactiques, les discours de Didier Deschamps, la récupération, ils ont de quoi faire. Et puis, de toute façon, quand Ryan Cherki veut s'occuper, il passe derrière les fourneaux pour ses coéquipiers, dont Jules Koundé.
Je mets tout le boulet. Ouais, tout. Tu veux ta tomate?
Ouais, c'est pour moi. Mais je sens quelqu'un qui maîtrise. Je suis en confiance.
Ah, c'est une petite scène anodine de la ville des Bleus à l'heure du repas. Une vidéo de la Fédération française de football, ce qui nous propose depuis le début des moments très sympas, ouais, faut
c'est
le dire,
très,
avec
très
les
sympa,
joueurs.
Ouais, vraiment,
ça
enfants,
donne envie d'être avec eux.
Les Norvégiens, eux, ne sont pas au mieux avant leur quart de finale contre l'Angleterre samedi.
Bah, il y a un virus qui circule dans le vestiaire norvégien. Ils sont plusieurs à avoir une vilaine toux, un bon rhume. Enfin, il y en a un qui est pas touché, c'est le cyborg. Erling Haaland est tellement costaud que même les virus n'osent pas trop s'approcher. Lui, il s'entraîne normalement et en rythme. On peut pas s'en empêcher. Le Viking Raw, Erling Haaland prêt à défier Harry Kane samedi, à celui qui marquera le plus, à celui qui fera gagner son équipe.
Alors, les Anglais, eux, sont à fond derrière Harry Kane, mais ils montrent aussi leur amour à Jude Bellingham.
Ouais, le milieu de terrain a marqué un doublé lors du 8e de finale contre le Mexique. Les Anglais veulent le remercier. Ça tombe bien. Il y a une station de métro qui s'appelle Bellingham dans le sud de Londres. Ils ont donc ajouté Jude juste au-dessus. C'est plus simple que d'ajouter Bellingham à la chanson des Beatles.
Hey Jude. Bellingham.
J'y arrive pas. Franchement, je
rêvais de faire un duo avec les Beatles. Merci.
Fulpa.
Et bon. C'est grâce à l'équipe d'Angleterre qui lui crut. Merci Virginie Fulpa, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Alors pas de match ce soir, vous l'avez compris. Faites donc un tour sur rmc.fr pour découvrir le podcast des 48 équipes du Mondial. Tiens, il y a le Tour de France tout l'après-midi, évidemment. Dans un instant, les GG Alain Marchal s'installe. Bonjour Alain, quel est le programme?
Eh bien, avec les grandes gueules et avec vous surtout au 32-16, on va s'interroger. Marine Le Pen a-t-elle la bonne stratégie judiciaire? Est-ce qu'elle a raison d'y aller à la campagne pour l'élection présidentielle? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. On regardera la proposition de loi du sénateur communiste aussi, Yann Brossa. Il veut une réquisition climatique en cas de vigilance rouge ou orange. On réquisitionne des lieux climatisés pour y installer la population, pour la protéger. Les centres commerciaux, les centres de congrès ou quelques immeubles de bureaux inoccupés. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On reviendra sur la présomption de légitime défense pour les policiers adoptée hier à l'Assemblée nationale, très critiquée par une partie de la gauche, par des associations. Est-ce que c'est un permis de tuer? Et puis le risque d'incendie élevé, la sécheresse qui est là, les communes françaises qui reportent les feux d'artifice du 14 juillet. Est-ce qu'elles ont raison? Alors il y a même une commune qui a dit « Ne vous inquiétez pas, on se rattrapera en décembre ». Voilà, le feu d'artifice du 14 juillet, vous l'aurez en décembre. Le soir, c'est quand même un peu moins festif. Allez, vous venez en discuter avec nous au 32-16, je te jure.
Ouais, je te crois.